Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir, bonsoir Philippe.
Bonsoir Johanna.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Johanna.
Voilà, ça va s'arrêter là ce soir. Et oui, pour la rentrée, on n'est que trois. On est un peu triste. Alors on est un peu triste pour de vrai, parce que Vincent Degré, notre journaliste préféré, a quitté la Belgique. Donc Vincent, si tu nous entends, j'espère qu'on te manque.
Ciao l'artiste, comme on dit.
Ciao l'artiste. Sache que si tu ne viens plus à Grand Papier, Grand Papier viendra à toi. Il nous manque aussi Stéphane Noël. Alors Stéphane Noël, tel Atlas, croule sous le travail, donc il est excusé. Stéphane, t'es excusé. C'est pas grave. Voilà. Sinon, pour cette nouvelle saison, on a une bonne nouvelle quand même. À partir de la prochaine émission, nous accueillerons Talina Kiel, qui est libraire spécialisée en bande dessinée et en jeunesse. Donc on est très impatients de commencer la saison avec elle. Voilà, donc pour cette émission, nous aurons comme invités Émilie Plateau et Valfred, des jeunes auteurs que nous allons accueillir, car ils ont tous les deux une bande dessinée qui sort. Comme un plateau d'Émilie Plateau est sorti chez Six Pieds Sous Terre ce mois-ci. Et puis Ecce Homo, le livre de Valfred, sortira chez Alter Comics le mois prochain. Sinon, eh bien, il n'y aura pas de rubrique autour du paysage. Par contre, on aura une capsule nordique, comme d'habitude. Ce coup-ci, ce sera sur Villeranta. On parlera brièvement de 8P Comics, un nouveau projet de l'employé du mois. Enfin, nouveau, ça fait déjà plusieurs mois que c'est en route. Et alors, pour les nouveautés, alors on va parler de Colo Bredune 1999 de chez Kraumann et Dave Godin chez Shampoing. Susceptible de Geneviève Castry, le premier livre sorti à l'Apocalypse. Course de bagnole de Léon Marais au requin marteau. L'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert à l'association. Et Renégat d'Alex Baladi chez Ziuchi Kuchi. Mais avant ça, je te passe la parole, Nico. Tu as une petite présentation à nous faire.
Oui, merci Johanna. Oui, parce que un beau livre vient de paraître. Beau livre qui est L'art de la bande dessinée chez Citadel et Masno. Alors pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que on parle souvent du problème que rencontre la bande dessinée à être légitimée en tant qu'art, parce que voilà, ça reste, même si de plus en plus de progrès sont faits dans ce sens, ça reste quand même parfois difficile pour certains milieux, que ce soit universitaire ou artistique, finalement, de considérer la bande dessinée comme un art important.
Parce que c'est pas un vrai livre.
Parce que
mon petit-fils pourrait dessiner comme ça.
Voilà, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Citadel et Masno, qui est un éditeur français de référence dans le domaine du livre d'art, décide de consacrer un de ses ouvrages prestigieux à la bande dessinée. Et c'est important parce que Citadel et Masno, c'est quand même une grosse référence dans le domaine de l'histoire de l'art, qui propose des véritable pavé en général, des monographies imposantes sur des sujets que soit la peinture de la Renaissance ou d'autres, ou qui ont une grande collection qui est consacrée aux arts des grandes civilisations, qui font un travail iconographique absolument incroyable, avec à chaque fois un texte critique fouillé, pointu, détaillé de référence. Donc c'est un bouquin important, je pense, parce que ça donne un petit peu d'espoir, ça fait plaisir de se dire que la bande dessinée, petit à petit, peut réussir à... que des portes s'ouvrent pour elle, en tout cas, et qu'on puisse la voir. Et donc, ce bouquin-ci, en particulier, c'est un bouquin qui est le fruit de 3 ans de travail autour d'un comité scientifique qui est formé, ça c'est intéressant aussi, par des historiens de la culture, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des personnes qui sont des historiens spécifiques de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur qui est intéressant, avec par exemple le travail de Pascal Horry, et ils vont inviter, donc ce comité invite des auteurs spécialisés qu'on connaît bien, comme Thierry Grunstein et Benoît Peters, pour apporter effectivement leur point de vue à eux de spécialistes. Donc on a effectivement ce double regard, à la fois d'historiens de la culture extérieure, qui vont analyser effectivement la bande dessinée et de façon extérieure son histoire, et une histoire particulière qui est son histoire esthétique et son histoire culturelle, donc de voir comment va se développer la bande dessinée au travers de gros chapitres qui sont consacrés soit à la BD américaine. Benoît Peters fait un chapitre entier sur ce qu'il appelle le moment belge, donc au travers de gros chapitres d'analyse qui se veulent toutes neuves, parce que c'était aussi une des volontés de l'éditeur, c'était de proposer des analyses neuves sur la bande dessinée, enfin des choses qui avaient déjà été dites avant. Et donc ça c'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est un beau bouquin qui fait son poids et qui fait son prix, ça sent quand même 199 €, mais je pense que c'est un bel ouvrage, et en tout cas ça permet effectivement de reparler un peu de la légitimation de la bande dessinée en tant qu'art. Et voilà, j'avais envie en intro à cette émission de parler de ce bouquin et de dire que oui, les choses bougent petit à petit.
Il y a de l'espoir. Alors, on commence avec, pour les nouveautés, avec Colobre et Dune, 1999. Et tu continues, Nico, c'est toujours à toi.
Tout à fait. Alors, Colobre et Dune, un album qui m'a peu surpris, en tout cas le fait qu'il paraisse aux éditions Delcourt, dans la collection Shampoing. J'ai trouvé un peu surprenant. C'est un album qui a un côté très punk et assez. Je trouvais ça assez étonnant de le voir paraître chez Shampoing, qui a priori a une ligne éditoriale qui est un peu différente. Maintenant, voilà, il semble que Lewis Trondheim, donc directeur de la collection Shampoing, ait eu un gros coup de cœur en découvrant les trois fascicules originaux qui avaient déjà été pré-publiés à l'origine.
Et, chez Shampoing, on a l'impression que c'est souvent des récits plus légers.
Oui, il y a un côté bande dessinée qui pétille.
Et en même temps, il y a quelques mois, il y avait Saint-Laurent des Arabes qui était sorti.
Tout à fait, oui. Voilà, et donc, il y a peut-être une réorientation effectivement de la collection vers des sujets qui sont effectivement plus grave. Il y avait un côté plus léger, humoristique au départ, et finalement, ce bouquin qui sort là, bouquin écrit par Dave Godin et illustré par Kraumann, qui est au dessin. Dave Godin, qui est donc un des fameux frères Godin, auteur, qui est un duo qui est assez important au point de vue de leur travail d'illustration et de leur récit, principalement publié au dernier cri, ou qui font de l'auto-édition. Et Dave Godin qui va raconter trois semaines qu'il a passées en 1999 à Bredune, dans une colonie de vacances, une colonie d'été un peu particulière, puisque c'est une colonie qui va accueillir des handicapés lourds, qui est principalement des handicaps mentaux et aussi parfois des handicaps physiques assez lourds. Donc c'est effectivement un récit qui va commencer de façon très direct, abrupt, parce qu'on va plonger avec lui, qui arrive là de façon assez naïve. Il explique au départ qu'il s'occupe de colonies de vacances. De temps en temps, il a ce qu'il appelle des enfants un peu spéciaux qui arrivent, et ça le touche, ça l'intéresse, et il décide de partir dans cette colonie qui ne s'occupe que de cas d'handicap lourd. Et là, ça va être effectivement la rupture assez frontale, puisque il va découvrir effectivement ce que c'est de s'occuper au quotidien de personnes qui ont des handicaps lourds, dans le bruit, dans une où effectivement sont des handicaps différents. Chaque individu doit être, chaque handicapé doit être, on doit s'adresser à lui d'une certaine façon, on doit essayer de s'en occuper d'une façon différente à chaque fois, parce que il a des besoins très différents. C'est très dur. Et puis autour de ça, il y a une équipe qui est là, et qui est une équipe de bénévoles. Et Dave Godin, dès le départ, dit qu'il lui semble, chaque membre de cette équipe semble avoir un trauma profond, semble lui-même porter le poids d'une douleur, que ce soit ou d'un déviant sexuel. Donc, dès le départ, il dépeint cette équipe de bénévoles d'une façon assez noire également. Et donc, on va suivre ces trois semaines. Et je trouvais ça particulièrement touchant. Donc, Kraumann qui, au point de vue du dessin, à côté très punk, qui évoque que soit Gilles Doucet, Charles Burns ou Ludovic de Burm pour certains autres aspects, un côté chargé, noir, expressionniste qu'il a, qui rend superbement l'intensité, la noirceur, le décalage, parfois l'étrangeté ou la bizarrerie. Et qui rend parfaitement, je trouve, l'ambiance de cette colonie. Et puis, le tout est, en fait, il y a régulièrement des portraits réalisés par Dave Godin lui-même, qui sont des portraits de chacun des handicapés, qui sont absolument superbes. Donc, il va les dessiner et rendre, effectivement, leurs portraits d'une façon aussi assez expressionniste, mais qui est touchante, où effectivement chacun de ces handicapés nous apparaît dans ce qu'il est, dans sa fragilité ou sa violence, ou ben, voilà, je trouvais ça très très réussi comme bouquin qui est assez frontal et qui très 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 touchant, donc paru aux éditions Delcourt.
Ces portraits qui sont, je trouve, vraiment intéressants parce qu'ils sont finalement aussi parlants que le récit. À la fois, ils rythment le récit, mais pour moi, je trouvais ça, je l'ai dit déjà, mais aussi parlant, aussi touchant, aussi prenant que l'action en dehors où ils font des sorties, ils vont à la mer, ils font ce genre de choses. Et parfois, juste sur une page, juste sur un portrait, on peut s'arrêter aussi longtemps que sur d'autres actions. Donc il y a ce côté-là aussi, ces portraits font avancer le récit et lui donnent de la profondeur parce qu'on rentre un peu dans l'intimité comme ça des pensionnaires. Et une des qualités pour moi principales du bouquin, c'est que ce monde comme ça décrit de cette colo avec des handicapés, c'est un monde qui... Ils arrivent à vous le faire vraiment sauter à la gorge. Ça vous prend comme ça en pleine figure. Ça reste pendant toute la durée des bouquins. Donc, moi, j'ai pas ressenti de malaise assez classique pourtant avec le handicap à se dire tiens, je suis un peu mal à l'aise à voir des histoires comme ça ou à, bon, forcément, on les voit pas, mais à être confronté à ce sujet-là. Ici, c'est il n'y a pas ça parce que ça saute comme ça, on ouvre la première page, ça saute en pleine figure et ça reste comme ça jusqu'à la fin.
Donc ça, c'est pour moi. On est pas mal à l'aise parce que la distance est vraiment très bonne aussi. Il y a beaucoup de justesse, il est très honnête par rapport à ses failles et en même temps, il n'hésite pas à dire non plus qu'il a quand même une certaine, je ne sais pas si on peut dire un don, mais en fait, il arrive quand même à en approcher beaucoup et à créer un lien. Il y a quand même beaucoup d'humanité, il y a de l'amour, on ne peut pas dire à aucun moment qu'il manque de respect. Pourtant, il peut quand même décrire à quel point il peut être écœuré, à quel point... et parfois, il a envie de les taper. D'ailleurs, à un moment, c'est ce qui finit par arriver. Et tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'honnêteté. Donc, finalement, on est pas mal à l'aise. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce récit. Un, l'adéquation entre ce qui est dit et le dessin. C'est vrai que ça s'y prête hyper bien. On est vraiment plongé dans un univers. Et puis cette thématique qui est abordée, puis qui est très bien abordée, en fait. On fait, on commence la colo se termine, et puis on est plongé dans cet univers avec lui, et je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est très marquant. Voilà. On passe à la suite.
Oui.
On avait répété, c'est ça
Non.
Parfait.
On passe à un complet, tout à fait autre chose avec donc le premier livre de l'Apocalypse. Nous, on est très contents, enfin, en tout cas, moi, je suis très contente de voir le premier livre, un premier livre de Geneviève Castré, qui s'appelle Susceptible, et donc c'est Philippe qui va en parler un petit peu.
Donc voilà, donc, en effet, premier livre de l'Apocalypse, c'est quand même important de s'y attarder deux secondes, hein, cette nouvelle structure créée par J.C. Menu, donc qui avait quitté un peu avec Avec perte, je ne sais pas, mais en tout cas avec fracas, ça c'est sûr, l'association. Pendant plusieurs mois, on s'est demandé ce qui allait se passer. Les rumeurs les plus folles ont couru sur JC Menu, sur ses projets et tout ça. Mais bon, voilà, finalement, de fil en aiguille, on commençait à avoir des infos sur ce qu'allait être ce nouveau projet, son nom, donc l'Apocalypse. Et sa volonté, sa ligne éditoriale, alors peut-être qu'on aura l'occasion, j'espère, un jour d'en parler avec lui directement, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais en tout cas, en effet, ici, voilà la première livraison. Il y a même un deuxième bouquin qui est sorti en même temps, qui est un bouquin de Topper, parce que l'Apocalypse, en effet, ne va pas faire que de la bande dessinée, entre guillemets, stricto sensu. Et un troisième bouquin, qui on attend, de Sandrine Martin, mais qui lui a peut-être pris un peu de retard, en tout cas qu'on n'a pas là. Mais donc, Geneviève Castré, susceptible. Alors, Geneviève Castré n'est pas très connue, et pourtant, elle est active depuis un certain temps. Alors, y a toute une série de récits qui sont parus dans Lapin, les Lapins, plus ou moins 39 à 44, si je ne me trompe pas, 38 même peut-être déjà à 44. Toute une série de petits récits en 4 à 8 pages, plus ou moins... Donc là, qui ont permis au public français de se familiariser avec son travail. Mais auparavant, elle avait déjà fait d'autres bouquins. En fait, c'est pas vraiment son premier bouquin. Elle a fait Les Frappés aux éditions Watt Cravant en 2000. Un bouquin chez Reproduct. Donc ça, c'est un éditeur allemand qui s'appelle Die Fabrik. Et ça, c'était en 2002. Elle apparaît dans le Cuche aussi, donc le Cuche, ces anthologies de cet éditeur laiton, c'est dans le Cuche numéro 7, elle apparaît. Donc voilà, elle a fait des livres disques aussi qui sont parus chez Key Records notamment. Donc à la fois déjà une certaine activité au niveau de la bande dessinée, et puis aussi une activité au niveau de la musique, qu'elle a sorti déjà, je pense, au moins deux disques, dont le dernier dont on écoutera un morceau bientôt. Alors, sur sa biographie, sur son site, elle dit elle-même qu'elle a aucune formation officielle en art. Voilà, c'est elle qui le dit. Alors, c'est peut-être une des bases de son travail graphique qui, personnellement, moi, je trouve en tout cas, moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué quand j'ai découvert Geneviève Castré, c'est son dessin. Son trait, il y a une sorte de... Alors, ça fait penser un peu à du Julie Doucet, pardon. On n'est pas très loin d'une forme d'esthétique un peu punk aussi, en tout cas très lâchée, très cracra, rentre dedans. Je sais pas, j'essaye de trouver des onomatopées pour faire ça. Uh-huh. J'y arrive pas vraiment. Mais en même temps, une élégance folle aussi. Moi, je trouve qu'elle a déjà, en quelques pages, en quelques bouquins, acquis une identité assez incroyable. Moi, je trouve ça déjà très fort par rapport à ça. Et susceptible, n'y déroge pas. On retrouve son trait directement, pour peu qu'on ait déjà pu le découvrir auparavant. Et il y a des pages d'une beauté redoutable. Donc ça c'est pour moi le gros point fort de ce bouquin. Alors pour pitcher, comme le dit notre ami Stéphane, rapidement, Susceptible, en fait, c'est un récit autobiographique pur. On est ici plongé dans l'enfance de Geneviève Castré. Alors donc dès sa plus jeune enfance, on va dire jusqu'à son adolescence, plus ou moins jusqu'à la 18 ans, plus ou moins comme ça que se clôt le bouquin, sans vous en dire plus. Autobiographie pure qui, finalement, j'en discutais un peu avec Nicolas, nous projette quelques années en arrière dans une autre décennie de l'association. Et on reparlait pour reparler de Julie Doucet, ça fait vraiment penser à ça. Peut-être qu'il y a des autobiographies dont on a parlé ici dans l'émission ces derniers temps étaient peut-être plus teintées de fiction. Ici, c'est vraiment autobiographie pure. D'où vient peut-être ma petite déception à la lecture de ce Susceptible, c'est que justement dans les Lapins ou dans les bouquins sortis à Loi de Cravant, était couplé à ce graphisme que moi je trouve assez époustouflant, une imagination dans les récits, une sorte de une sorte là aussi de folie qu'on pouvait retrouver et que je retrouve moins ici. Je trouve ça du coup un peu plus plat, très bien à certains moments, très vivant, très prenant, et à d'autres moments, voilà, je trouvais ça clairement moins intéressant. C'est toujours un peu le piège de l'autobiographie, c'est essayer en racontant sa propre histoire, selon moi en tout cas, de nous emmener un peu ailleurs. Et ici, à certains moments, j'étais pas vraiment baladé ailleurs, je restais très proche de son histoire à elle, et du coup je sentais ça un peu plus ennuyeux. Que dire encore? Donc voilà, donc je suis quand même très intéressant, et puis surtout, en fait, je suis moi très impatient d'avoir un second bouquin, peut-être à l'Apocalypse ou ailleurs, mais voilà, de voir autre chose, de la voir dans un autre domaine s'illustrer. Voilà, grosso modo.
Moi, je redirais quelque chose sur le dessin, parce que je le décrirais pas du tout comme toi, qui le décrit un peu comme punk ou cracra. En fait, justement, je trouve ça très propre et soigné, en fait, parce qu'il y a beaucoup de petites choses, elle s'attarde sur plein de détails, en fait. Donc voilà, je l'aurais pas décrit de la même façon que toi, même si c'est vrai, il y a une filiation peut-être avec Julie Doucet en même temps, elles sont tous les deux québécoises.
C'est vrai que c'est assez soigné. Ce que je voulais dire, c'est une sorte d'énergie qui sort de ça. C'est un côté assez brut, moi, je trouve. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est assez soigné dans les détails.
Ouais. Moi, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont extrêmement poétiques. On n'a pas parlé de la mise en page, mais c'est quand même assez audacieux, parce qu'on a régulièrement un gaufrier, mais qui, selon les besoins du récit, peut exploser. Donc, on va avoir des pages avec des dessins libres. On a parfois beaucoup d'espace. Et puis, elle se permet aussi... un dessin par page, un ou deux dessins par page, puis des fois on a des vignettes qui prennent les deux tiers de la page, qui sont vraiment magnifiques, comme à un moment on a un bateau dans la neige, puis une autre fois elle parle d'une tuerie, puis en fait elle imagine cette tuerie parce qu'évidemment elle l'a pas vue, et je trouve que ça fait des moments de pause dans le récit qui sont vraiment très très beaux. Et on n'a pas parlé de la maquette. Je pense que c'est assez important, c'est quand même le premier livre de J.C. Menu.
C'est toi qui dois parler de ça.
Ah bon?
C'est toi qui dois parler des livres.
Alors j'ai l'étiquette maquette, alors je vais en parler. Parce qu'il est quand même assez classe.
Oui,
c'est un petit livre, c'est assez humble, hein, c'est un petit format, mais il est très élégant.
Pourquoi la tranche est dessinée comme ceci?
Comme ceci, je pense que ça ne parle pas à beaucoup de gens, parce qu'en fait, on est à la radio. Un petit peu de travers, en fait.
Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi?
Vas-y, tu vas nous dire.
C'est vrai qu'à la radio, on l'a regardé, et vous n'allez toujours pas le voir, mais faites le même exercice que moi. Prenez votre livre prenez votre Geneviève castrée dans les mains, face à votre papa ou votre maman ou votre copine, ouvrez-le.
Ben, c'est ça, quand on l'ouvre, la tranche est en forme de pyramide, c'est ça?
En forme de A.
En forme de A, waouh, ouais. Ça veut dire que tous les livres vont être comme ça?
Ça, c'est le but, ça veut dire qu'ils seront tous comme ça.
D'accord, t'as trouvé tout seul ou...
Non, on me l'a dit.
Oh, je suis déçue là.
Ouais, à un moment, j'ai hésité à dire que je l'avais trouvé tout seul, mais non. Bon, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a ce détail-là aussi.
Oui, parce qu'il y a
d'arrêter de se moquer de moi.
Un évident travail de maquette qui est fait, ça, on n'en attendait pas moins, de menu qui a toujours été... pris un soin particulier depuis le vieux Futuro.
On remarquera la tête de mort à côté du code-barre.
Oui, sur tous les bouquins, voilà. D'ailleurs, sur le bouquin de Topor, c'est la même chose. Donc, il a finalement cédé à ce point auquel il ne voulait pas céder à l'association, à savoir de mettre un code-barre, puisqu'il avait toujours refusé de le faire. Là, il le fait, mais effectivement, toujours à la menu, en rajoutant sa petite touche, cette fameuse tête de mort à côté du code-barre qui est son message.
Mais je trouve le choix des couleurs très classe. Voilà. C'est un livre qui donne envie d'être pris en main et envie d'être regardé. Et comme quand on l'ouvre en général, enfin moi je trouve, je continue de dire que son dessin est très séduisant. Voilà, j'espère que ce livre aura un certain succès.
Et c'est ce que je lui souhaite. Je pensais que vous alliez en parler, il y a une fausse ou une vraie peau de crocodile à l'intérieur.
Oui, rose. C'est vrai.
Rose, mais qui a priori ne sera pas dans tous les bouquins, elle, par contre.
Peut-être.
Voilà.
Mais je n'ai pas le terme technique pour décrire cette partie, mais vous.
Oh, j'aurais dit ça.
Oui, non, mais il y a.
En simili-croco, rose.
Ouais. C'est vrai.
Je veux dire en deuxième de couverture, c'est ça que tu voulais
dire. C'est ça.
En troisième de couverture. Voilà.
C'est osé, mais je trouve que ça marche.
Oui, et je rebondirai en disant que je suis d'accord avec vous deux, qui n'êtes pas d'accord, à savoir qu'il y a effectivement une filiation à Doucet, mais effectivement c'est d'une élégance dingue, puisqu'il y a un côté, elle, tout est rehaussé avec des sortes de lavis, il y a un travail sur la matière, le bouquin est en grisé. Et c'est tout des effets de lavis, de gris qui effectivement rendent le tout ultra séduisant, comme tu le dis si bien. Même sentiment que Philippe, je trouve que effectivement le danger, le problème, moi, je trouve, c'est très, la relation avec sa mère est très difficile. Le bouquin parle principalement de ça, j'ai le sentiment. C'est comment l'enfant Geneviève va vivre avec sa mère qui, effectivement, boit beaucoup et dans l'excès constamment. Et comment Geneviève castrée essaye de grandir avec ce modèle féminin qui est un peu borderline. Et c'est assez... c'est effectivement assez fort. Maintenant, pour moi, le problème, c'est le problème de la tension. Je trouve que le récit n'est pas assez tendu, comme diraient les éditeurs. Pour reprendre le terme éditorial, je trouve que le bouquin n'est pas assez tendu, c'est-à-dire qu'il y a des beaux moments. Je crois qu'on pourra en reparler tantôt avec l'enfance d'Alan, parce que je lui ferai à peu près le même reproche, mais donc je trouve qu'il y a, ce sont des beaux, il y a des souvenirs forts, des autres souvenirs plus anecdotiques, toujours le rapport à la mer qui est présent, mais effectivement, comme Philippe, par rapport à Roulatec Nicolor et par rapport à Les Frappés, qui étaient deux bouquins qui étaient où il y avait une touche parfois surréaliste, un truc, des récits beaucoup quasi muet, presque expressionniste, ça me claquait vraiment à la gueule. Ce bouquin ne m'a pas fait le même effet. Maintenant, c'est vrai qu'il a une optique totalement différente. Ici, elle est vraiment dans un registre de l'autobiographie, qui est un registre effectivement particulièrement difficile. Et voilà. Là, je trouve que par rapport à si on doit dire parler d'universalité du récit, est-ce que le récit dépasse le simple cadre de sa vie? Moi, j'ai pas eu ce sentiment, sauf à certains moments où effectivement j'ai touché par la relation à sa mère, où effectivement on peut se retrouver dedans. Pour le reste, voilà, c'était plutôt en demi-teinte, mais bon, ça reste visuellement superbe. Le bouquin est incroyablement beau, il a plein de qualités également, quoi. Donc voilà, je pense que
Je suis assez d'accord avec vous. En même temps, je trouvais que la manière qu'elle a de raconter, la façon dont elle s'émancipe, était quand même assez subtile. Donc, est-ce que c'est parce que je suis une fille? Est-ce que c'est parce que ça se passe au Canada? Mais non, mais bon, je peux m'identifier peut-être plus qu'un homme. Et puis, je trouve que le fait que ça se passe... c'est francophone, mais ça se passe au Canada, enfin au Québec. Je trouve que ça aussi, ça a ajouté un charme particulier. Mais donc, voilà. Moi, j'étais plutôt convaincue, mais
Tous au Québec pour apprécier le livre de Geneviève.
Tous au Québec. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, et en même temps, je trouvais que ça
avait
du charme.
Tu viens de passer de moi au Québec, t'es plus objectif.
Ouais, c'est ça. Mais je sais, je suis pas très objective. Je repartais un peu. Voilà. Ensuite, on parle de Baladi, c'est ça?
Mais là aussi, t'es pirate, donc ça pose un problème.
Ouais. Je suis pas objective du tout. On va parler donc de Renégat, le livre de Alex Baladi aux éditions Ziuchi Kuchi. Donc, Alex Baladi est un auteur qu'on a eu en interview il y a de ça un peu plus d'un an, lorsqu'il était à Sierre pour la fabrique de fanzines. Donc, pour les gens qui connaissent un peu son travail, c'est quelqu'un qui est très prolifique, qui a pas mal de bouquins à son actif et qui est aussi très, très présent dans le monde du fanzine. Avec ses collègues, il a fondé la fabrique du fanzine, qui est une sorte d'atelier itinérant qu'on peut retrouver en festival, qu'on a vu à Angoulême et à divers endroits. Je ne vais pas refaire l'historique. Il y a un livre qui est sorti chez Atrabil qui raconte cette histoire-là. Là, on parle de son travail d'auteur. Et donc, on a un bon gros livre, Alex Baladi. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc j'étais très impatiente de me plonger dedans. C'est un beau livre, on va parler directement de la maquette, puisque je pense qu'il y a des choses à dire. C'est un livre qui fait un peu penser à un drapeau de pirate, je pense que c'est fait exprès. Toile est noire avec une sérigraphie blanche légèrement en relief. Et donc, ce livre de Baladi parle de pirates. Alors, pour les gens qui connaissent Baladi, on s'imagine bien qu'il ne va pas nous raconter une saga de corsaires comme on a vu si souvent dans les films et pendant notre adolescence. Donc, il aborde la vie d'un pirate qui veut bien livrer son témoignage à un gentilhomme moyennant... parce que ce pirate est emprisonné, donc c'est moyennant un peu de nourriture et quelques bons soins. Donc déjà, dès le début, on a une vie de pirate qui n'est pas du tout stéréotypée, parce qu'il faut savoir que Baladi, ça fait longtemps qu'il a ce sujet-là, et puis c'est quand même beaucoup renseigné. Il a lu beaucoup de choses, il y a des références très explicites à la fin du livre. Donc on a plutôt un pirate qui est motivé par un esprit légèrement prolétaire, comme ça, plutôt une idée de liberté, puis on finit par avoir un peu plus d'intérêt pour les motivations de ce pirate. C'est pas un barbare assoiffé de sang. Et puis je trouve que le récit se densifie et prend vraiment pour moi beaucoup d'importance à partir du moment où ce gentilhomme n'est plus en accord avec ce que le pirate raconte. Et je pense que c'est là, d'ailleurs c'est ce qu'il appelle le cœur du récit, ce cœur du récit qui n'arrive jamais, parce qu'en fait on se rend compte qu'à un moment les attentes du gentilhomme divergent complètement de ce que le pirate a à dire en vérité sur sa vie de pirate, d'où le nom, d'où le titre en fait, renégat, qui désigne des pirates qui ont renié leur religion de base pour prendre une autre. Et du coup, ça en fait un récit très actuel, parce qu'en fait, ça parle vraiment de ce qu'on a envie d'entendre et de la manière dont on a envie que la vérité concorde à nos idées. Puis en fait, c'est rarement le cas. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant pour ça. Au niveau du dessin, bah, on a toujours un Baladi, celle qu'on le connaît, ça fait 3 fois que je le dis, c'est bien.
Mais là, je ne suis pas spécialement d'accord.
Attends, je finis.
Non, mais...
Bon, moi, je trouve qu'en tout cas, on retrouve... Moi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Bon, déjà, pour commencer, un trait bien franc, noir et blanc. Quelque chose d'assez libre, dansant. Dans sa mise en page, on a parfois des cases, mais très très vite, on a quelque chose de très libre, très aérien, on a des bulles, on a parfois des dessins qui sont d'un coup très symboliques, parfois presque abstraits, on suit le pirate dans ses rêveries, donc voilà, ça respire beaucoup, c'est très vivant, je sais pas comment dire, c'est très souple en fait, donc c'est très agréable par rapport au rythme de lecture, on peut s'attarder, puis on peut passer plus vite sur certaines parties. Donc là-dessus, voilà, moi, autant au niveau de la manière dont c'est écrit et la manière dont c'est dessiné, il y a une espèce d'élégance et une sorte de style qui est quand même, je trouve, assez typique de son auteur. Voilà. Et alors, je voudrais juste... Après, je vous laisse la parole. J'ai entendu aujourd'hui Philippe le libraire parler de ce livre à la radio et il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit « C'est un récit qui cache autant de choses qu'il en montre. » Et je trouve que ça résume vraiment bien le travail d'Alex Baladi. Voilà.
Donc, demandons à l'autre Philippe, le libraire, sur le en
c'est
studio,
pas le même.
De nous
écoutez,
sortir
je suis pas du tout d'accord, je m'insurge. oui, c'est difficile de passer après ça. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je connais une citation de Kennedy, mais non, ça va pas le faire cette fois-ci. Non, en fait, je suis assez d'accord et pas d'accord avec toi, Johanna, par rapport au style. C'est-à-dire qu'on retrouve le Baladi qu'on connaît dans certains bouquins, enfin certains pattes de mouche à l'assaut et tout ça, et en même temps on est loin d'un autre Baladi, notamment dans son, ce qui moi j'ai l'impression est son long récit précédent, parce que finalement il se compte sur les doigts de la main, on avait déjà discuté de ça avec lui, qui est Frankenstein encore et toujours chez Atrabil, mais qui remonte déjà il y a vraiment plusieurs années, qui lui par contre était beaucoup plus dense, beaucoup plus fermé comme ça, chargé. Et ici, justement, je trouvais par rapport à ce long récit-là, parce qu'il en a fait d'autres encore, mais qui remontent à Mathusalem quasiment, à la Charrette, je pense, aux éditions Charrette. Du coup, celui-ci est terriblement aérien. Donc c'était juste, voilà, c'était juste que à la fois, oui, on le retrouvait, et en même temps, sur un long récit, je trouvais ça un peu différent de ce qu'il y avait là. Et c'est vrai que, pour enchaîner sur ce dont on parlera après, le morceau de musique sans doute, je trouve un petit rapport entre le Baladi et le Guibert, c'est la construction de la page, ou dans les deux, et même en fait, je faisais une troisième comparaison avec Émilie Plateau, qu'on va retrouver plus tard, Il y a beaucoup de blanc dans ces pages. Et, mais dans les trois, pour moi, même si ce sont des bouquins très différents, c'est plutôt la qualité, finalement, parce que la page est construite d'une telle manière que même si c'est très aéré, pour moi, ça reste très cohérent, ça reste très construit. Et donc pour en revenir sur le baladi, ce côté-là, ce côté graphique de construction de la page m'a beaucoup plu. C'est aussi un trait, finalement, très mûr. Moi, j'ai l'impression qu'on est... Ça fait tellement d'années qu'il bosse Baladi, peut-être 15 ou 20 ans maintenant. J'ai l'impression que c'est presque un album de la maturité. J'espère qu'il va pas mal le prendre. Mais je le sens tellement abouti, ce bouquin, aussi bien au niveau du récit qu'au niveau du dessin, que voilà, moi, j'étais ravi de le lire. On a parlé de l'aspect témoignage et je terminerai juste alors plus par rapport aux éditeurs. Je trouve aussi que là, on assiste à une nouvelle étape dans la au niveau de la maison d'édition Uchikuchi, où on les a reçus cet été. Donc c'est cette émission du mois de juin au Mont-en-l'Air à Paris, qu'on vous invite à réécouter, ou à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai l'impression que dans les bouquins qu'on a déjà, dont on a déjà parlé, qu'on a déjà chroniqué ou qu'on a déjà eu l'occasion de lire, on passe ici encore autre chose. Ils ont toujours fait des bouquins très élégants, etc. Ici, c'est la même chose, mais on passe encore à une autre étape avec un auteur peut-être d'une plus grande envergure encore de ce qu'ils avaient avant. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement, on est encore assez jeune et pas trop vieux, que pour avoir quasiment vu naître cette maison d'édition il y a quelques années avec le Turkey Comics et tout ça dont on a parlé avec eux. Et là, j'ai l'impression qu'on assiste à des étapes. Et ça je trouve ça assez chouette. Et avec ce tour de force, donc, de faire un album qui n'est pas luxueux dans ce qui peut, ça peut avoir des négatifs, mais qui est classe. Donc ça me plaît beaucoup par rapport à ça.
Tout à fait, et je citerai Aimé Césaire qui disait « Liberté, mon seul pirate
». Allez Philippe, t'as sa citation là.
Non mais je rassure les auditeurs, j'ai Internet sous la main et je ne connais pas les citations.
Bon, je t'en fais une, je vous ai compris.
Non, et donc j'ai trouvé ce bouquin absolument superbe. C'est pour moi une des grosses belles surprises de la rentrée parce que effectivement le livre est très beau, que effectivement je trouve que c'est un grand baladi, que Uchikuchi fait un super boulot d'édition et c'est régulier parce qu'on parle souvent de leurs bouquins et que il faut vraiment les suivre et les encourager. Parce que ça en vaut vraiment la peine quand on voit ça. Et je trouve que le bouquin, effectivement, c'est dur de ne pas dévoiler tout un tas de choses. Parce qu'effectivement, je trouve que, Johanna, tu en parlais assez bien sur la rupture qui arrive entre les attentes du gentilhomme et ce que vit ce pirate et ce qu'il raconte. Et qu'effectivement, il va y avoir pour moi une donnée à un moment plus politique, qui est très contemporaine. Parce qu'effectivement, il va y avoir des pirates chrétiens et des pirates musulmans, et qu'il y a cette donnée-là qui va rentrer, que je ne veux pas du tout dévoiler ou déflorer, mais que j'ai trouvé absolument superbe. Il y a une véritable fable contemporaine sur ce qui se passe aujourd'hui, sur le rapport à l'islam, le rapport aux religions, aux tensions, qui est là, effectivement, présent dans ce livre et qui arrive effectivement en filigrane. Je trouve ça vraiment subtil, beau, intelligent, particulièrement bien écrit, surtout à l'heure où sort Terreur Sainte de Frank Miller en français. On va pas refaire le grand débat. On a déjà fait Frank Miller à Bibi.
Qui l'a traduit ?
Delcourt l'a traduit. Donc,
Les
yeux fermés, parce que c'était Frank Miller a priori. Allez, allez. Mais donc, on ne refera pas le débat, mais de nouveau, on pourrait faire un face-à-face Renégat Terreur Sainte après un face-à-face avec le Habibi, mais on évitera au café. Et donc, voilà. On va en parler pendant le morceau de musique, en fait. S'engueuler en plateau. Hors studio. Voilà.
Alors maintenant, c'est le moment de prendre une petite pause avec donc un morceau du projet musical de Geneviève Castry qui s'appelle Au Pan. Et c'est un morceau qui s'appelle La Panne.
Non, je suis désolé, c'est pas une... Ah, pardon.
Ah, c'est pourri.
Magnifique. Bon, pour les gens qui ont aimé la musique de Opin, il faut savoir que les vinyles sont assez faciles à trouver et que c'est Geneviève Castry qui les illustre, et donc ce sont des objets assez sublimes. Voilà, fini la publicité. Maintenant, on continue les nouveautés. Alors, on passe à l'enfance d'Alan, d'Emmanuel Guibert.
Tout à fait.
Et Nico.
Oui, j'ai eu envie de parler de l'enfance d'Alan parce que, voilà, Emmanuel Guibert, c'est juste un des plus grands auteurs, je pense, contemporains en bande dessinée, tout continent confondu. Je ne vous cacherai pas l'amour que je porte pour son travail parce que, voilà, je trouve que quand je vois son œuvre depuis ses tout débuts, j'avais amené Brune sur le plateau, qui était son tout premier bouquin, qui était signé dans un style qui n'a strictement rien à voir, qui était paru chez Albin Michel en 1992, et qui raconte la montée du nazisme, qui est dans un style réaliste, qui s'inspire, je crois, un peu effectivement de la peinture allemande des années 30, où on est effectivement... parle de l'Allemagne des années 30 et décide de faire tout le beau récit avec un style graphique qui est le style graphique qui est d'application à l'époque. Et puis voilà, il va y avoir son travail à l'atelier des Vosges dans la revue Lapin, la rencontre avec Sfar, Blin, Émile Bravo, Boilet et les autres, et une libération de son trait qui va avoir lieu peu à peu, que ce soit au travers de La fille du professeur chez Dupuis, il y a ces séries jeunesse comme Sardines de l'espace, et puis graphiquement, on va continuer à avoir une avancée avec son travail sur La guerre d'Alan, qui va vers de plus en plus d'épuration avec La guerre d'Alan, un travail où effectivement il va... faire disparaître peu à peu parfois des décors entiers, travailler sur uniquement sur les gestes des personnages, leur déplacement, le silhouettage, vers quelque chose de très aéré et de très fort, d'absolument somptueux. Je trouve qu'il atteint une maîtrise graphique assez dingue parce qu'il a l'air de maîtriser parfaitement, de synthétiser le dessin et d'arriver à nous mettre sous les yeux juste l'essentiel avec une élégance élégance rare. Et en plus de ça, je trouve que c'est un excellent raconteur d'histoire parce que au départ, que ce soit des récits fictionnels, il va petit à petit se tourner vers ce qu'on appellera finalement la bande dessinée du vécu. Ai-je lu il y a peu, c'est-à-dire une bande dessinée où il va raconter des vies. Va raconter dans une de ses œuvres les plus connues, le photographe, la vie de Didier Lefebvre, photographe qui va partir dans une mission en Afghanistan. Il va raconter cette mission humanitaire que suit ce photographe, et il va raconter dans La guerre d'Alan la vie de Alan Ingram Cope, un retraité américain qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a donc débarqué en Europe pendant la guerre et va traverser l'intégralité de l'Europe pour rejoindre Berlin, mais sans tirer quasi, je crois, un seul coup de feu, puisque tous les combats se passent devant lui. Lui est sa deuxième vague de soldats, et en fait il traverse l'Europe d'une façon plus ou moins pacifique, et ne va jamais utiliser son arme, et va juste découvrir l'Europe peu à peu, en ruine, totalement dévastée par les conflits, par les combats qui ont eu lieu juste devant lui. Et ce qui est très beau, et je pense que Emmanuel Guibert en parle, c'est qu'il veut raconter la guerre telle qu'Alan l'a vue, c'est-à-dire que ce n'est pas effectivement un récit de guerre classique, c'est la guerre telle qu'elle est vue par cet homme, homme qu'il avait rencontré lorsqu'il avait 30 ans, avec qui il s'est lié d'amitié, qu'il a enregistré pendant des années, toute sa vie, et il va rendre, parce qu'il a plein de bandes et plein de... Il a finalement enregistré une grande partie de la vie de cet homme, d'Alan Graham Cope. Il va nous rendre maintenant son enfance au travers d'un bouquin également publié à l'association. Bouquin qui est assez particulier parce que je trouve qu'il y a toujours cette même élégance graphique qui est présente. Il y a des planches absolument somptueuses et incroyables. Mais il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, pour moi, a priori, dans l'ouvrage. Et c'était assez difficile au départ. Je trouve qu'il y a... c'est un récit donc vraiment d'enfance qui a des côtés absolument passionnants, puisqu'on va découvrir ce que c'est d'être enfant dans la Californie de la Grande Dépression. C'est une époque vraiment particulière des États-Unis, donc l'enfance d'Alan, les récits de sa famille, certains membres de sa famille vont tout perdre, vont perdre leur argent. On va découvrir tout cet univers qui, moi, me faisait penser au Raisin de la colère de Steinbeck, où il y a des récits parfois dramatiques assez forts. Il y a une ambiance qui est là, parce que dans les Steinbeck, il y a toujours cette poésie. Il y a des choses qui sont parfaitement rendues parce qu'il parle, que ce soit l'odeur du citron, des goûts, des ambiances, tout ça est magnifiquement rendu. Mais d'un autre côté, il y a, comme je le disais quand on a parlé de Geneviève Castré, a priori un problème de tension. Je trouve qu'il y a des anecdotes qui sont moins percutantes, qui sont vraiment de simples anecdotes, d'autres histoires qui sont absolument bouleversantes, qui sont vraiment fortes ou drôles ou décalées, et que finalement il y a des moments où j'ai l'impression qu'on décroche, où on est dedans, puis on est de nouveau à l'extérieur, puis on revient, on est un peu ballotté. Donc voilà, je trouve qu'il y a des moments absolument fort et superbe et incroyable, et le final, j'étais les larmes aux yeux parce que j'étais de nouveau repris très fort par ce qui se passe en fin d'album. Il y a d'autres moments que j'ai trouvé très réussis, mais voilà, je trouve qu'il y a un problème de tension, et c'est peut-être aussi ici le problème du souvenir de qu'est-ce qui est ce qui est important pour Alan. Ce qui l'a marqué, lui, est forcément totalement subjectif. Ne trouvera aucun écho en nous. Et j'ai l'impression que voilà, ça arrive parfois. Et autant sur toute l'histoire d'Alan pendant la guerre, dans la guerre d'Alan, où effectivement j'ai pas eu ce sentiment, parce que sans doute c'est effectivement raconté d'une façon plus classique. Les événements s'enchaînent les après les autres. Il y a finalement quelque chose de plus classique dans le récit et dans la narration. Ici, comme c'est une succession de souvenirs, c'est le premier souvenir qu'il a avec sa grand-mère, le premier souvenir qu'il a avec son grand-père, le premier souvenir de sa mère, le premier souvenir de son canard qu'il a domestique, etc. J'ai l'impression que voilà, ça ne fonctionne pas de la même façon, et c'est peut-être le problème d'un liant, qu'il aurait fallu lier toutes ces petites bribes d'histoire entre elles d'une façon ou d'une autre, et voilà.
Moi j'ai perçu plutôt un problème de rythme, en fait, parce qu'il n'y a aucune respiration, donc les souvenirs, en fait c'est comme une discussion qui se termine jamais. Il y a un problème au niveau de la lecture, en fait, parce que si l'auteur Emmanuel Guibert, lui, a récolté ces souvenirs-là au fur et à mesure des rencontres, il nous les rend sur un livre qui fait, je ne sais pas, une centaine, 150 pages. Et pour nous, ça s'enchaîne. Et alors, c'est peut-être la faute de l'auteur aussi de ne pas avoir inclus de respiration. Donc, tout est très décrit. On tourne la page, pouf, on passe à autre chose. Et moi, c'est vraiment... Je me suis ennuyée. Puis, il y a même un moment où j'arrêtais volontairement de lire en disant oh, « C'est bon, j'ai ma dose. » C'est comme une discussion qui ne se finit pas avec quelqu'un qui dit « Ah, en fait, oui, tiens, je me rappelle d'un truc. » Et là, tu fais « Non, c'est bon, j'ai ma dose. » Donc, moi, j'ai eu un gros problème avec ça, que j'ai beaucoup moins eu dans la guerre d'Alan. Mais je trouve que le charme s'évapore, en fait, au fur et à mesure du livre. Malheureusement. Donc il y a un problème de souvenirs, comme tu disais, d'anecdotes ou de souvenirs qui sont vraiment marquants pour nous, parce que c'est quand même un personnage qu'on ne connaît pas, il faut quand même qu'il y ait une empathie qui se crée. Et puis c'est noyé dans d'autres trucs qui sont vraiment anecdotiques, et pour le coup... Alors c'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde, donc c'est peut-être une question de rythme ou...
Ouais, personnage qu'on ne connaît pas vraiment. Moi, je l'ai lu en ayant lu déjà au moins deux fois La Guerre d'Alan il y a quelques années déjà, et plus récemment quand est sortie l'intégrale. Moi, je suis vraiment un ultra fan de cette intégrale de La Guerre d'Alan. Beaucoup moins déjà de l'enfance d'Alan, mais Alors, pour moi, le côté vraiment intéressant, c'était d'avoir des pièces au puzzle qui manquaient, parce que ce personnage d'Alan pendant la guerre est quand même assez incroyable. C'est un véritable humaniste. En fait, il s'en fout de la guerre. Par chance, il doit pas combattre, mais je vais dire, il s'intéresse aux Allemands, il s'intéresse à l'architecture allemande, aux artistes qu'il peut rencontrer, etc. Ce qui, à mon avis, était déjà peu le cas de la plupart des soldats américains qui pensaient qu'à bouffer de l'allemand. Ça, c'est déjà une chose. Donc ici, c'est comme si on avait des pièces du puzzle qui manquaient par rapport à la construction de ce personnage-là. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, justement, moi, je me suis perdu parce qu'à la fin, dans l'enfance d'Alan, on parle de lui, mais on parle aussi de sa grand-mère, pendant des pages, de son grand-père. Et c'est comme si là, du coup, moi, je me perdais par rapport à ça. Alors que dans la guerre d'Alan, on est... À côté d'Alan, c'est comme si on était son casque ou son fusil. On est tout le temps avec lui, tout le temps. Mmh. Et ça crée une sorte d'intimité assez folle, qui est pour moi le gros point fort. Alors qu'ici, on est beaucoup plus perdu, on le suit. Donc voilà, il n'y a pas la même... ça ne marche pas de la même manière. Je pense aussi que peut-être que... c'est une théorie peut-être stupide, mais... Le contexte de la guerre est peut-être aussi un contexte qui est un peu plus tendu, un peu plus qui peut peut-être plus unifier le récit. Ici, on est dans quelque chose de différent, dans une autre période. Je ne sais pas si par rapport à ça, il n'y a pas quelque chose qui joue aussi.
Je ne sais pas, parce que c'est vrai que le fait que ça se passe un peu dans la Californie du début du siècle et tout, moi, j'étais assez excitée. C'est quand même une période qui m'intéresse.
Je trouve que ça marche pour le début, mais j'étais moins convaincue au milieu du récit, parce que moi aussi, la période de la Grande Dépression, les années 30, ces premières pages en couleur qui ouvrent le récit sont, moi, je trouve vraiment bluffantes et magnifiques. Mais c'est comme si le charme disparaissait. Je retenais un terme pour la guerre d'Alan, c'est le terme d'enchantement. J'ai vraiment été enchanté du début jusqu'à la fin. J'ai pas retrouvé ça ici. Donc voilà. Je me suis vraiment raccroché à cette idée de pièce de puzzle. Je connaissais Alan Cope. Eh ben maintenant, allons voir qu'est-ce qu'il nous raconte avant, enfin, qu'est-ce qu'Emmanuel Guibert nous raconte de sa vie. Et je me suis accroché à ça. Un peu comme l'a dit Nicolas, des super parties. Moi, j'ai quand même bien aimé ce bouquin.
Ah oui, tout à fait.
On est un peu loin pour moi de la guerre d'Alan que je porte un peu au pinacle comme ça. Peut-être l'effet de surprise aussi qui a disparu.
Mais moi, j'ai commencé par l'enfance d'Alan et j'ai lu ensuite la guerre d'Alan, donc c'est pas ça. Moi, j'ai un avis un peu différent sur le dessin que vous. Je sais que c'est un dessinateur, c'est un virtuose, il a une carrière de dessinateur incroyable. Que ce qu'il fait est extrêmement élégant, mais moi, j'ai un mal de chien avec... avec sa manière de... En plus, j'avais déjà fait la réflexion avec le livre d'avant qu'on avait chroniqué sur les Gitans. Je trouve son réalisme tellement réaliste, c'est tellement figé. Enfin, moi, je trouve ça statique, en fait. Il y a des moments où je me dis, OK, pourquoi pas une photo, alors? Parce que c'est vraiment... Enfin, je trouve ça très photographique. Et il y a un moment, je trouve, il y a tellement de détails que ça tue le dessin. Il y a un problème. Enfin, moi, je trouve ça manque.
C'est plus fort dans l'enfance d'Alan, d'ailleurs.
Ouais.
Et ça, c'était de... Je me suis posé la question, est-ce que le fait qu'il soit encore plus réaliste... Parce que je trouve que le dosage parfait, c'est dans la guerre d'Alan. Je trouve que là, ça, pour moi, ça marche vraiment bien dans la guerre d'Alan. Là, il est beaucoup plus photographique. Et je me demande si c'est pas le rapport à la distance dans le temps. Comme si le fait que ce soit beaucoup plus loin ou que ce soit une période qu'on connaît moins ou qu'il faut représenter les choses avec d'autant plus de force pour les rendre tangibles.
Ouais, moi,
parce que les souvenirs sont loin, le dessin est plus fort. Donc voilà, c'est particulier. Maintenant, voilà, je trouve qu'il y a des fulgurances, des scènes incroyables. Des choses, il y a la scène du frelon que je trouve folle, enfin, quand il raconte, il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais voilà, il y a un problème de temps.
Moi je trouve ça, je suis frustrée en fait, c'est pas une vraie critique en fait, parce que je remets pas en cause sa qualité de dessinateur, mais je suis plus frustrée en fait, parce que des fois j'ai juste l'impression d'assister à un diaporama interminable, alors que je suis certaine que, en plus... J'ai lu une interview où il disait qu'à côté de ses planches, il avait une espèce d'espace où il pouvait faire des tâches, où il pouvait être sale. Et moi, j'aurais envie de lui dire, mais sois sale dans ta BD un peu plus. En plus, il introduit une sorte de matérialité. Il y a dès la couverture, on a un jeu comme ça de grattage et tout. Alors, on peut croire qu'il va y avoir éventuellement des accidents, mais tout est maîtrisé du début à la fin. Le moindre effet graphique, même s'il quitte la plume, même s'il fait des tâches et tout, c'est incroyablement maîtrisé.
Petite pensée pour David Liebens, qui avait dit, je pense, la même chose que toi.
Bah peut-être, mais moi,
peut-être qu'il fait des tâches, mais que l'association passe derrière. Quoi.
Peut-être que l'association...
Nettoie tout, toutes les planches en disant, oh là, c'est dégueulasse.
Il y a des dessins que je déteste dans ce livre, où on voit la moindre brique de la moindre maison, la moindre feuille de l'arbre qui est là-bas au dernier plan, et je trouve que ça tue.
Tu préfères Brune, en fait.
Brune, alors ça, c'est vraiment... Je ne sais pas s'il revendique ce livre, mais voilà, dans une autre vie. Bon, on va passer alors aux dernières nouveautés. En fait, c'est une nouveauté, mais c'est surtout un auteur qu'on va évoquer, parce qu'il a sorti plus ou moins deux livres au même moment. Donc, c'est Léon Marais, l'auteur, qui a sorti chez 2024, Canne de fer et Lucifer, et à peu près au même moment, si je ne me trompe pas, Course de bagnole chez les requins marteaux.
Exactement, mais ce sont des bouquins qui datent déjà du mois de juin. Oh là là, chers amis, mais c'est pas trop tard dans toutes les bonnes librairies. J'espère qu'ils auront encore du Canne de fer et Lucifer ou Course de bagnole. Et de toute façon, s'ils les ont pas, commandez-les. Parce que c'est de la bombe. Oh là, je me croirais sur Radio Contact. Et d'ailleurs, je tourne ma petite page comme tous les journalistes de Radio Contact. Donc moi, j'ai lu ces bouquins un peu par hasard. Je dois bien avouer que Léon Marais, au mois de juin, je le connaissais pas. Il avait fait, quand même le signaler... chez Alain Bollet en 2010, Laisse faire. Voilà, un petit bouquin que malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir dans les mains. Mais donc voilà, et ce qui m'a surpris, c'est en effet de voir deux bouquins du même auteur qui pour moi était inconnu sortir chez deux maisons d'édition, certains des, mais déjà bien installés sur la place, avec une grosse brique chez 2024, et un bouquin quand même d'une certaine taille aussi chez les requins marteaux. Donc ça m'a intrigué. Alors, ce sont deux bouquins qui sont différents et se ressemblent en même temps, évidemment. Alors, Course de bagnole, pour pitcher un peu, comme dirait notre ami Stéphane, je sais que je l'ai déjà dit, c'est une sorte de folle course de voiture. Moi, ça m'a fait fort penser, alors ça c'est pour un peu les vieux cons, mais à la série animée Les Fous du Volant. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est, je dois pas en dire plus, on est dans le même topo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de course de voiture avec une chiée de concurrents, d'équipes
plus improbable,
d'équipages plus improbables les uns que les autres, voilà. Et donc ils ne pensent qu'à gagner, donc se font plein de coups bas, etc., etc. Canne de fer et Lucifer, rien à voir. Là, on est donc Course de bagnole, c'est plutôt contemporain. Canne de fer et Lucifer, on se retrouve pendant la période de la Révolution française. On suit le parcours initiatique, on va dire, de Gaston Martin, qui est un jeune prodige au combat de Cannes. Alors le combat de Cannes, c'était un combat qui existait à l'époque.
Et on se bat avec des cannes.
Voilà, on se bat avec des cannes plutôt qu'avec des épées. C'est quelque chose qui existait à l'époque. C'est un jeune prodige, mais qui a un gros souci, c'est qu'il n'aime pas se battre. Donc du coup, il est très doué dans une matière en fait qui ne lui plaît pas trop. Donc deux récits différents, je vais dire au niveau du contexte, graphiquement aussi. Chez les requins marteaux, on est plutôt dans un récit où il y a beaucoup de couleurs. C'est assez pété, moi je trouve, dès le départ. Ça me fait penser fait fort penser à Monsieur Pixel des éditions de l'Employé du Mois. Alors que chez Canne de fer et Lucifer, on est plutôt dans un noir et blanc, avec des lavis, hein, du gris. Mais je trouve que graphiquement, c'est un peu plus sage. En tout cas, au début, ça me donnait cette impression, en tout cas en les comparant. Alors avant de passer la parole à mes collègues qui trépignent. Ça, c'est un peu pour les différences. Je trouvais que le tour de force était déjà d'avoir sorti deux bouquins qui sortaient en même temps, avec des époques et des sujets qui semblaient finalement différents. Alors qu'en fait, moi, j'ai retrouvé finalement plein de points communs entre les deux, et c'est ça qui m'a plu, c'est que j'avais l'impression, un peu comme je disais là tantôt, l'impression avec le Renégat qu'on voit comme ça une maison d'édition au Chicucci qui grandit, qui évolue, etc. Ici, j'ai l'impression d'assister à la naissance d'un auteur, disons les mots tels qu'ils sont, Léon Marais, parce que tout de suite, j'ai trouvé plein de choses que je trouvais très intéressantes. Alors, des dialogues très imagés, très imaginatifs, alors parfois très crus dans l'humour, et puis parfois beaucoup plus fin. Il y a des grosses blagues avec des proutes et du caca, il me semble, si je me souviens bien, dans Canne de fer Lucifer. Mm-hmm. Mais il y a aussi des allusions politiques, alors parfois un peu plus voilées et parfois bien plus évidentes, et qui vont assez loin, qui poussent la réflexion assez loin. Il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, mais dans les deux bouquins, les personnages aussi sont portés comme ça par une sorte de quête d'absolu. On sent bien que y a vraiment un souffle comme ça, un souffle épique qui pousse les héros comme ça. Alors de nouveau, même au niveau de cette philosophie, parfois ça apparaît comme de la philosophie de comptoir, et puis parfois on se rend compte qu'il y a bien plus, on touche au sens même de la vie, il y a quelque chose comme ça de vraiment clair. On est pour moi comme ça dans les deux bouquins, malmené mais dans le bon sens du terme, surpris assez souvent. Alors le rythme de course de bagnole est plus trépidant. Je reprends un peu ce qu'un lecteur à la librairie m'a dit, et je suis assez d'accord avec lui. Au niveau du rythme, course de bagnole a un rythme fou et démarre en trombe, et c'est comme ça pendant les deux tiers, et puis c'est vrai que peut-être qu'à la fin ça tombe un peu, les voitures freinent et ça retombe un peu, et peut-être que Canne de fer et Lucifer c'est peut-être l'inverse, où moi j'ai d'abord lu Course de bagnole et puis je me suis enfoncé dans Canne de fer et Lucifer, qui est beaucoup plus long d'ailleurs. Les éditions 2024 elles-mêmes disaient c'est fou le pari qu'on a fait de faire un aussi gros bouquin avec un auteur inconnu comme ça. Canne de fer à Lucifer, j'ai vraiment eu du mal au début, ça a démarré assez lentement pour moi. Mais en fait, je dirais au premier tiers du récit, une fois que j'avais bien les pieds dedans, j'ai continué et j'ai été au bout. Et il y a vraiment une sorte de, je peux pas dire de crescendo dans l'action, mais en tout cas, c'est sûr qu'on lâche plus Gaston Martin jusqu'à la fin et on a envie de savoir comment ça se termine. Et donc voilà. Donc pour moi, deux bouquins vraiment très intéressants. Et un auteur vraiment à découvrir. Mais Johanna va nous en dire plus. Elle qui avait préparé des pages entières. Mais elle chipote. Elle chipote.
Comme je n'ai pas fait mes devoirs, je vais en profiter pour une deuxième citation d'Aimé Césaire. Si vous voulez comprendre ma politique, lisez ma poésie. Voilà, Johanna.
Ok, moi j'ai des choses
là,
à dire.
Là, il parlait de course de bagnole ou de...
Non, par contre, Aimé Césaire a dit les voitures, c'est pour les ministres et les députés. J'aurais dû choisir celle-là, elle était plus dans la thématique.
Bah oui, j'étais en train de passer un mot doux à la technique, je suis désolée. Et donc, Canne de fer et Lucifer, moi je dois dire que je suis pourtant, j'ai mon mot doux qui revient, donc je suis un peu déconcentrée. Non, ne regarde pas. Donc, Canne de fer et Lucifer, je suis assez fan et assez curieuse de ce que font les éditions 2024, mais je dois avouer que quand j'ai vu ce livre, comment dire, ce pavé, eh bien, je ne me suis pas jetée dessus. Je me suis dit, ah, c'est quand même un gros livre. Et puis, je l'ai offert.
Parfois, il faut faire des sacrifices, voilà, Johanna. Ce n'est pas tout le temps joué, que du
pages.
Plaisir. Hein.
Non, mais donc c'est presque 300 pages. Et alors, quand tu l'ouvres, c'est quand même... c'est un peu une impression fanzine, comme ça. C'est un papier fin, noir et blanc. Non, mais attendez, je vais aller jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je ne me suis pas jetée dessus, en tout cas. Et il s'avère qu'en fait, ce livre, je l'ai commencé et puis je l'ai dévoré. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très drôle. Et je ne me suis pas ennuyée du tout. Et j'ai découvert un auteur avec plein de qualités. Donc déjà, le dessin, il est super bien. Il est, presque 300 pages avec un dessin qui tient la route, je trouve, tout le temps, qui est super vivant. Et alors, dans l'écriture, je trouve qu'il y a une grande qualité d'écriture, comme tu disais tout à l'heure, c'est... Bon, il y a de l'humour, mais c'est aussi très vite référencé. C'est vraiment très bien écrit. Il y a un mélange des genres qui est hyper cohérent. Donc, ça se passe au moment de la Révolution Il y a une manière de parler qui met en place par rapport à cette époque-là, qui n'est pas forcément juste, mais qui est cohérente. Et donc voilà, je n'ai pas eu le plaisir de lire Course de voiture, mais en tout cas, Canne de fer et Lucifer, j'ai trouvé que c'était un super livre. Du coup, je me dis, 2024, décidément, sont des gens qui ont le nez fin et ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, un gros livre. Et alors, il y a une qualité très anecdotique, mais très appréciable dans ce livre. Il y a un petit marque-page intégré. Pour un livre qui fait presque 300 pages, je trouve ça très futé.
Non, ce qui te plaît,
on regrettera que ce soit pas le drapeau belge.
Oui, voilà, il est bleu, blanc, rouge, c'est ça qui te
plaît. Ah, il est bleu, blanc, rouge.
Qui liserait, oui, bien sûr, évidemment.
Ça, on sait. Tout à fait. Mais donc voilà, super livre et super auteur. J'ai hâte de lire autre chose de cet auteur-là.
Donc voilà, très jubilatoire. Et c'est vrai que tu l'as dit, je ne sais pas si je l'avais dit, mais des dialogues assez truculents.
Moi,
je
me souviens, voilà, truculents. Et j'ai vraiment rigolé en lisant ce livre. Donc c'est passé vraiment tout seul. Voilà, donc maintenant, moi je propose qu'on fasse une petite pause en écoutant de la musique. Nous allons écouter, alors accrochez-vous, un morceau en première mondiale, on est assez fiers. On va écouter un morceau de Héloïse Decazes, vous arrêtez pas de vous faire des signes. Héloïse Decazes et Éric Chenot pour un morceau musique qui s'appelle La Complainte du Roi Renard, qui est le premier projet d'un nouveau label belge, Okraina.
Et on va enchaîner tout de suite après avec la capsule. Donc, capsule sur Villeranta qu'on a réalisée donc en juin avec Serge et
Evensik.
Voilà, j'espère que Serge, qu'on prononce bien ton nom, désolé. On avait oublié de le noter. Donc, Villeranta, auteur finlandais, qui a publié toute une série de bouquins. Enfin, Papa est un peu fatigué et l'excellent Exilé du Kalevala, donc chez ça et là. C'est pour ça qu'on en a parlé avec Serge, mais qui a sorti aussi un bouquin chez Rackham il n'y a pas longtemps.
Avec Lewis Trondheim.
Voilà, un bouquin Celebrities aussi. Et donc très intéressant de voir, c'est un vrai moteur de la scène bande dessinée finlandaise, à la fois en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur, parce qu'il a des éditions qui s'appellent Azema, où il a publié d'autres gens aussi. Donc vraiment un personnage très intéressant, et Serge, qui le connaît très bien par ailleurs, nous en fait une capsule et du coup un portrait très intéressant.
Oui, une vraie déclaration d'amour, je trouve.
Une vraie déclaration d'amour, on aime bien ça.
Se triple dans ses mains, sa mère était sur le créneau qui vit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi, ni de la femme ni du fils, je ne saurais me réjouir. Je sens la mort me transit, meurt fait tendre sur un lit, mais faites-le dresser si bas que ma femme n'entende pas. Garde-t'en et demeurerai, à la minuit trépasserai, et quand cela vers la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Ah, dites-moi, mère, mamie, pourquoi nos valets pleurent ainsi? Ma fille, en baignant nos chevaux, ont laissé noyer le plus beau. Ah, dites-moi, mère, mamie, pour un cheval pleurer ainsi, quand le roi que j'entends cogner ainsi, ma fille, ce sont les charpentiers qui raccommodent le plancher. Ah, dites-moi, mère, mamie, quel habit prendrai-je aujourd'hui? Prenez le vert, prenez le gris, qu'est-ce que ce noir-là signifie? Femme qui relève d'enfant, le noir lui est bien plus séant.
Donc, nouvelle capsule consacrée à des auteurs nordiques. Nous allons parler de Ville Ranta, qui est un auteur finlandais. Et c'est Serge qui est éditeur chez Ça et Là, et qui a, si je ne m'abuse, édité son premier bouquin en français, qui va nous en parler.
Bonjour. Petit correctif, il me semble que le livre auquel... Le premier livre de Ville publié en France, c'est celui qui est sorti, qu'il a fait en collaboration avec Lewis Trondheim.
Celebrities.
Je pense qu'il est sorti juste avant ou même six mois avant qu'on ait sorti notre livre.
C'est pour ça qu'on fait appel à des experts, c'est pour avoir ce genre de correctif.
Alors, je suis pas du tout un expert sur la bande dessinée scandinave et finlandaise, mais en fait, j'ai rencontré Ville très tôt, peu après la création de Sailor, en fait, à mon premier Angoulême. Bon, j'ai créé Sailor en 2005, mais en fait, nos 7 ans, et donc au premier festival en tant qu'éditeur, avec un stand en janvier 2006, Ville était là, et il faisait un peu la tournée des éditeurs pour présenter son travail. Et donc, notamment, si ma mémoire est bonne, le Celebrities était déjà sorti donc en janvier 2006, donc il présentait ça pour montrer ce qu'il faisait. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, du coup, c'est quand il m'a montré ses carnets et le carnet qui venait d'auto-éditer dans sa propre structure d'édition, puisque Villeuve présente la particularité d'être un auteur-éditeur et d'éditer un certain nombre d'auteurs très intéressants de la nouvelle vague finlandaise, notamment Kati Kovac, Jyrki Häkkinen. Et donc, il avait fait un gros travail d'éditeur et il auto-éditait ses propres livres. Et le premier carnet, le premier ouvrage qu'il m'a montré m'a vraiment intéressé, même si je comprenais pas grand chose au niveau du langage parce que mon finnois est très 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 mauvais. J'étais assez fasciné par l'évidence de sa maestria graphique, parce que ce Ville est un des dessinateurs qui me surprend et qui me fascine le plus par la facilité qu'il a de dessiner à la main levée. Et ça se ressentait dans son carnet, qui vraiment vibrait d'un dynamisme, d'une créativité qui était flagrante. Donc on avait sympathisé, il m'avait expliqué quel était le propos, puisque Ville par ailleurs aussi est un des rares auteurs étrangers que je connaisse qui soit complètement francophone. Il parle vraiment très très bien, très très bien français et encore mieux anglais. Et donc j'étais vraiment très intéressé. Je lui dis qu'a priori ça m'intéressait. Et après il m'a fait rencontrer Kirsi Kinnunen, qui est la grande entremetteuse entre la Finlande et la France pour ce qui concerne la bande dessinée, qui est traductrice émérite, qui traduit sinon tous, en tout cas une très très grande partie des bandes dessinées finlandaises publiées en France, et qui sert un peu d'agent comme ça, informel ou formel, entre les agents, les auteurs finlandais et les éditeurs français, et vice versa aussi d'ailleurs, puisqu'elle elle aide aussi des éditeurs français à vendre les droits de certaines de leurs publications à des éditeurs finlandais, et à traduire dans les deux sens d'ailleurs. Il me semble qu'elle a traduit Celebrities en finnois, si je ne m'abuse. Et donc cet ouvrage là m'a vraiment, qui était donc Papa est un peu fatigué, ce serait peut-être temps que je donne le titre,
parce que là tout le monde l'a,
cette longue introduction, est un carnet autobiographique. Il n'a jamais caché d'ailleurs que son modèle pour ça était vraiment les carnets de Sfar, et qui présentait là l'intérêt d'être un carnet très particulier qui parlait quasiment exclusivement de sa petite fille, et plus précisément de la maladie de sa petite fille en fait, qui est diabétique, qui a un diabète infantile. Et donc il raconte tout, déjà les bouleversements qu'a été l'arrivée de cette fille dans son noyau familial, et pour lui en tant qu'auteur, éditeur, bon ça on va dire, c'est le cas de tous les auteurs qui deviennent papa ou maman, mais bon, la particularité c'est qu'ils se sont rendus compte assez rapidement qu'elle avait des problèmes de santé. Donc il raconte un peu toute la, et on le voit à travers son carnet puisqu'il faisait vraiment jour le jour, comment ils ont appris ça, comment ils se sont rendus compte, comment les docteurs de Helsinki ou de Oulu où ils habitent leur ont expliqué leur cas, et comment ils se sont retrouvés confrontés à une maladie chronique infantile, donc toute la lourdeur que ça pouvait impliquer. C'est vrai que bon, ça moi c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement parce que je suis assez sensible à ce genre de thématique comment dessiner, et ce que je trouvais vraiment fascinant c'était comment il arrivait à parler à la fois de lui en tant qu'auteur éditeur, de l'histoire de sa fille, tout en faisant en plus prenant énormément de liberté avec la narration autobiographique, parce qu'il aborde il fait une similarité entre lui et Ornette Coleman et la fin de la vie d'Ornette Coleman, ou un passage de la vie d'Ornette Coleman où il était vraiment quasiment complètement dépressif, il n'arrivait pas du tout à se relancer professionnellement en tant que musicien de jazz, et donc tout d'un coup au milieu du carnet on a que 20 pages de 5 ou 6 ans de la vie d'Ornette Coleman, et le parallèle que fait ensuite Villa avec Ornette Coleman, et je trouvais ça complètement libre et fascinant. Donc voilà, donc j'ai acheté les droits du livre, on l'a sorti en 2006, peu après donc sa sortie finlandaise, en un peu moins d'une année, et donc depuis on se suit, je suis son travail, il suit le nôtre, et c'est vraiment un auteur que je trouve très très brillant et très intéressant, parce qu'il a une vraie volonté pour moi, ce qui est vraiment très très intéressant, ce qui est beaucoup plus sensible encore dans son deuxième livre qu'on a publié, L'Exilu du Kalevala, c'est cette volonté d'utiliser son bagage littéraire. Lui, il a une formation très très littéraire, il a fait des études à Helsinki de littérature, et il a vraiment cette volonté d'un travail sur l'écrit, sur le langage, sur la densité qu'on peut mettre, vraiment de pousser les limites de la bande dessinée pour mettre un maximum de texte, ou en tout cas une volonté d'avoir un travail sur la narration qui fait, je pense, un des grands intérêts de son travail, au-delà de la prouesse graphique qui est évidente. Mais lui, on a l'impression que ça lui vient tellement naturellement que quand il dessine, qu'on le voit à Angoulême, quand il vient chaque année faire des dédicaces, des concerts, il a été invité je sais pas combien d'années consécutives par les gens du festival d'Angoulême, parce qu'il, pour les concerts de dessin, il est tellement fort en improvisation que c'est vraiment assez fascinant. Et il vient toujours en dessinant, il est toujours en train de dessiner ses prochains bouquins, de faire des reportages en bande dessinée pour le compte des journaux finlandais, parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup, il a un gros travail d'illustrateur presse et sous forme de bande dessinée ou de petits dessins. Donc on a l'impression que voilà, le gros de son travail finalement c'est plus sur le dessin, mais c'est sur le texte. Et c'est vrai que quand on travaille sur la traduction avec Kirsi Kinnunen et les adaptatrices qui travaillent aussi avec Kirsi Kinnunen, puisque Kirsi étant d'origine finlandaise, ils ont toujours besoin d'avoir un francophone, quelqu'un de français qui puisse repaufiner le texte une fois qu'il a été traduit. On se rend compte qu'il y a vraiment un champ lexical, une volonté de assez littéraire dans son texte. C'est ça qui m'intéresse, et je pense que ça va être le cas de son prochain livre qu'on va publier l'année prochaine, qui va être aussi historique, mais pas ancré dans la réalité comme l'était L'Exil du Kalevala, qui se passait au 19e siècle et qui est une version romancée de la vie d'Elias Lönnrot, qui est le créateur celui qui a compulsé, rassemblé les poèmes qui ont constitué le Kalevala, la grande épopée finlandaise. Donc là, ça se passe aussi au 19e siècle ou 18e siècle, mais c'est une fiction et sur 300 pages, tout en couleur, en pastel. Enfin, on va vraiment voir. Il m'a souvent montré ses carnets autobiographiques qu'il fait depuis quelques années maintenant, qui sont en couleur et qui sont magnifiques. Et là, on va pouvoir voir, je pense, tout l'étendue de son talent, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau du dessin, de la couleur. C'est vraiment j'allais dire un petit génie, c'est poussé, mais c'est assez déstabilisant à quel point il peut être doué dans tant de domaines, tout en restant être très très humble. Et c'est quelqu'un avec dont je suis assez proche, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et à discuter. Lui suit énormément la scène de la bande dessinée indépendante européenne, française, mais aussi américaine. Il se tient vraiment très très informé. Ça, c'est aussi sa casquette d'éditeur. Mais du coup, c'est intéressant. On parle aussi d'édition, on parle de papier, de fabrication, de technique. Et voilà, c'est un des auteurs avec lesquels qui s'implique le plus dans ses adaptations aussi, parce que c'est lui qui fait lui-même le lettrage en français. Comme il parle français, il peut faire le lettrage en français sans faire de faute. D'ailleurs, il fait quasiment aucune coquille. Moins qu'un auteur français en faisant lui-même le lettrage, par exemple. Ce qui peut arriver souvent, d'ailleurs, quand des auteurs étrangers font même le lettrage. Alors, j'ai souvenir de Thomas Gabizon qui me disait qu'il a édité un livre chinois il y a quelques années. C'est l'auteur elle fait lui-même le lettrage, pour le coup ne parlait pas un traître mot de français, mais n'a pas fait une seule faute, parce que pour lui c'était du dessin en fait, donc il a recopié le texte français en dessinant. Alors c'est pas le cas de Bideau, il parle français, il fait lui-même le lettrage, qui est un gros boulot vu qu'il y a beaucoup de textes dans ses bouquins, qui sont en général assez l'exilé du Calais, voilà, il y avait 280 pages, donc c'est vraiment un plaisir, voilà, de comme ça et là on fait beaucoup de traductions, enfin que de l'adaptation de textes étrangers, d'avoir un auteur qui puisse s'impliquer aussi loin dans l'adaptation de son livre.
Ok, c'est reparti. Alors, entre-temps, on dit des bêtises, voilà. On a accueilli Émilie Plateau et Valfray. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va pas tout de suite parler avec vous, là, tout de suite, puisque, en vitesse, Philippe va faire l'agenda. C'est parti, Philippe.
Vous allez sans doute rien comprendre, parce que je vais aller très, très vite. Mais tout est sur le site, de toute façon. Mais il y a tellement de choses intéressantes que ça nous semblait intéressant d'en parler quand même en direct. Alors, le 29 du 9, c'est-à-dire c'est déjà samedi, je pense, c'est ça ?
Oui, samedi, oui.
Samedi, Émilie Plateau sera en dédicace à la librairie Tropisme avec Alain Mounioz et sera aussi, tant que j'y suis, en dédicace, alors du coup, un mois plus tard, le 25 octobre, à la librairie, cette fois-ci Multi-BD, avec Oriane Lassus et Hassein. Alors, commence aussi à partir de vendredi l'exposition Regard sur la bande dessinée alternative en Belgique francophone. Ça se passe à la bibliothèque Edgar P. Jacobs à Lannes. Il y a un vernissage ce vendredi. Ils seront présents donc des maisons d'édition comme Frémoc, La Cinquième Couche, L'Employé du Mois, Nord-Est, Tête à Tête, Lustre et Habeas Corpus. Donc vernissage vendredi et l'expo après qui dure pendant un mois, plus ou moins. Alors Lannes, c'est un peu loin, mais ça vaut la peine sans doute parce que les éditeurs ont présenté leur travail en 3D, donc sous forme d'objets, de meubles. Je pense que ça vaut le détour. Samedi, on annonce l'ouverture d'une nouvelle librairie. Alors pourquoi on le fait ? Parce qu'on pense que cette librairie va proposer des bons bouquins et peut-être des courses de bagnole de Léon Marais, je ne sais pas de quoi, des colobrés d'une, shampoing, etc., etc., etc. Ça se passe rue Lesbroussard, 39, donc il y a une ouverture festive samedi à partir de 18h. C'est à la librairie Tix. Et il y a de façon un mail, une adresse mail, un site internet, pardon, comme il faut dire, pour aller voir ça. Alors le 30 septembre, qu'est-ce qu'on m'a mis sous le nez ? Le 30 septembre, le dimanche, à 16h, il y a un goûter sonore au salon Momen. Donc c'est pour une écoute radiophonique conviviale en présence des réalisatrices. Il y a aussi un film qui est projeté, c'est Karl qui a fait l'invitation. Donc ça, voilà, ça a l'air bien. C'est Bertrand qui nous a mis ça entre les pattes. Et c'est, on vous conseille d'y aller. Alors, ça, c'est aussi Bertrand qui nous a mis dans les pattes. Le 2 octobre, il y a un vernissage d'une expo, d'un bouquin Requin-Marteau. C'est Nix, l'auteur, Billy Bob. Et ça se passe chez Bruzel, au boulevard Anspach. Donc, Nix est un auteur qui publie depuis un certain temps. C'est un auteur néerlandophone, si je ne m'abuse. On enchaîne, me dit Johanna. 4 octobre, concert expo au Chaborgne. Je ne sais même pas de quoi je parle. Exposition de Niels Grispert, pardon. Là, je sais de quoi je parle, pardon. Donc auteur chez Nord-Est. Donc son exposition. Tout ça à Scarbeck, près de la place Collignon. Alors après, je dois enchaîner avec toute une série de concerts. On va écouter un morceau. D'ailleurs, on a déjà entendu un morceau, en fait, La Complainte du Roi Renaud. Berthe, oui, oui. On a déjà entendu ça, excusez-moi. Donc là, c'est un nouveau... alors, comment ça s'appelle ?
Un label.
Un nouveau label de musique, c'est ça. Ukraina, ça s'appelle. C'est Philippe Delvossal qui a mis ça en place. Il y a des concerts d'Héloïse Descazes et Éric Chenot. Alors, on vous les recommande très, très vivement. Et donc, vendredi 5 octobre, samedi 6 octobre, dimanche 7 octobre, il y aura à la fois des concerts, donc le dimanche 7 à 16h à Bruxelles, à la Beauce, et à 20h30 à Bruxelles. Le 5 octobre, c'est à 20h à Louvain-la-Neuve, à la ferme du Biérot. Et le samedi 6 octobre, c'est à 16h30 à la médiathèque de Charleroi. Voilà, c'est un tout nouveau projet, un tout nouveau label, avec de très bons... des très bons musiciens. Allez-y. Non, ce n'est pas pour moi. Alors, on enchaîne le week-end suivant. Ah non, bah le même week-end en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le 5 octobre, est-ce qu'on va à la dédicace apéro avec Amélie Plateau à Montpellier ou est-ce qu'on va voir à Louvain-la-Neuve Héloïse Descazes et Éric Chenot ? Alors, pour ceux qui sont à Montpellier ou dans la région, bah, allez voir Amélie Plateau. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous allez à Louvain-la-Neuve, à la ferme du Biérot. Comme ça, il n'y a pas de souci. Le week-end suivant, ben ça, de toute façon, ça c'est pour tout le monde, hein, dans le monde entier. Il y a les 24 heures de la bande dessinée organisée par l'employé du mois, du 13 du 10 au 14 du 10, avec une soirée qui le précède, qui précède, les 24 heures. Du coup, ça, ce sera à Recyclard, avec Habeas Corpus. Habeas Corpus qui organise tout ça. D'ailleurs, je dois vous parler du programme d'Habeas Corpus, mais il est juste après. Putain, cet agenda est incroyable, j'en ai jamais eu un comme ça.
C'est le plus long de toute l'histoire de Radio Grand Papier.
Évidemment, c'est celui dont on doit parler. Donc, 24 heures de la bande dessinée, 13 et 14 du 10, avec une soirée festive le 18 octobre au Nova, où il y aura non seulement des projections, mais aussi des concerts de Guillaume Maupin et d'autres. Et surtout, on aura cette fois-ci publié, imprimé, toute une série de récits qui auront été faits pendant les 24 heures et que nous distribuerons gratuitement. Lors de cette soirée au Nova, donc ça vaut, il y a plein de raisons pour y venir. Ah bah oui, et donc pour ceux qui sont pas à Bruxelles à ce moment-là, qui quand même veulent pas venir, en même temps, Alex Damoté, lui, sera toujours à Montpellier. Du coup, Émilie Plateau, toi, tu n'y seras plus, je pense.
Non, on échange.
Toi, tu n'y seras plus.
Un week-end sur deux.
Voilà, mais donc Alex Damoté, lui, sera à Montpellier. Il sera en dédicace à Grabbles, donc il y a une grosse ville juste à côté de Montpellier, au festival des nouveaux mangaka. Voilà. Et alors, le programme interminable d'Habeas Corpus, mais je dis interminable parce qu'ils font plein de choses, et alors je ne sais pas comment je vais tout dire, mais ça se passe donc à Recyclard, c'est du 7 octobre au 28 octobre, donc c'est un bon mois. Un mois d'exposition, concerts, librairies et autres plaisirs. Dimanche 7, le vernissage. Vendredi 12, donc on en a parlé, le lancement des 24 heures bande dessinée grand papier et concert de Guillaume Maupin. Vendredi 19, concert de Karl et les hommes boîte plus Jesus is my son. Ce sera vers 19h. Alors, jeudi 25, toujours d'autres concerts, mais le nom est vraiment trop compliqué. Et le 28, on finit avec un finissage, sortie officielle du livre d'Alain Munoz, en même temps Le Grand Vide, qui est un très bon bouquin, dont je pense on n'a pas encore eu l'occasion de parler dans cette émission. Et alors, on m'a mis encore une dernière date, le 19 octobre, Reste Tranquille, numéro 3, rue de Laeken 125, avec des expos d'Oster, Grouk et Susto Prophétique. Mais ça, c'est...
Ça fait y être vulgaire.
C'est vraiment pour me chercher bagarre.
Voilà, c'était l'agenda le plus long de l'histoire de Radio Grand Papier. On va devoir rendre l'antenne.
Non. Il est l'heure.
C'est la musique.
Je suis désolé pour les invités d'avoir été si longs.
Bienvenue les invités, on est très contents de vous avoir.
Nous aussi.
Alors, pour les gens qui connaissent un peu des fanzines tels que Tonton, Deadline, Laser, Banzai ou Grand Papier, vous connaissez déjà Émilie Plateau et Valfray, vous êtes assez actifs dans le monde du fanzine. Mais là, on vous invite parce que vous sortez un livre. Donc, le tien, Comme un plateau, Émilie, qui est sorti 6 pieds sous terre, est sorti ce mois-ci. Et Chez Homo, chez Alter Comics, sort le mois prochain, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais toi, Valfray, tu as déjà sorti un livre, en fait, chez les Requins Marteaux.
Oui.
Bernard Barracuda.
En 2011.
En 2011.
Oui. Okay. Qui était ton premier livre ?
Oui, ouais, c'était le premier, oui.
Et alors, ce qui vous réunit un peu tous les deux, c'est que, en fait, vos livres sont des choses qu'on a pu découvrir déjà en fanzine. si je me trompe pas. Un petit peu, non?
Oui, moi j'avais fait 8 fanzines avant le livre.
Moi, c'était pas en fanzine, c'était sur la Gazette du Cheval de 4. Donc c'était sur Internet, ouais. Mm-hmm. Mais pas papier, quoi.
Le Cheval de 4, justement, c'est un fanzine sur lequel vous étiez tous les deux. Est-ce que vous avez une expérience commune par rapport à ça ou...
Bah, pas tellement, non. En fait, le Cheval de 4, c'est une petite bande à tourner qui a monté ce truc-là. Moi, j'en ai fait partie, mais j'en fais plus partie maintenant. Et du coup, j'ai collaboré quand j'en faisais partie, et puis après. Et puis, Émilie aussi a collaboré. Mais...
Moi, je participais à la Gazette sur Internet. Et après, ils m'ont demandé d'être rédac chef pour le numéro 11. Mm-hmm. Et de choisir des dessinateurs.
Ouais. Ok. Est-ce que, alors, chacun votre tour, est-ce que vous nous feriez un petit topo rapido de votre parcours? Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à aujourd'hui? Valfray, je sais qu'il y a une histoire un peu particulière, notamment par rapport à Grand Papier, par rapport à ton travail.
Moi,
d'auteur. J'aimerais bien que t'en parles.
J'ai arrêté l'école il y a genre 7 ans et du coup, je m'enlisais dans certains trucs, dans certains boulots. Et puis, il y a eu le projet Minneapolis John sur Grand Papier et du coup, ça m'a un petit peu forcé à chercher des choses. Et en fait, ça a été assez salutaire parce que j'ai vraiment... démarrer quelque chose de nouveau et puis ça a amené sur la publication finalement de Requin Marteau. Enfin c'est pas directement lié mais ça m'a amené ouais à ça ouais.
Finalement si on suivait ton travail sur Grand Papier, on a pu se rendre compte que tu te cherchais parce que tu as eu différents pseudos.
Ouais.
Puis il y a eu différentes pistes et puis à un moment c'est devenu Valfray.
C'est ça. Ouais ouais. Ouais ouais, ça m'a forcé à chercher des trucs le projet Minneapolis John c'était... Je sais pas si je dois rappeler un peu le projet, mais
oui, le projet,
le but était, on était sur Grand Papier, donc fallait proposer quelque chose de nouveau pour que les autres nous repèrent pas vraiment. Et du coup, ouais, ça m'a forcé à chercher d'autres choses en fonction des contraintes du moment, quoi, des contraintes de temps, parce que j'avais un boulot à mi-temps. Et voilà. Et du coup, ouais, ça a été vraiment salutaire, je pense. Ouais.
Alors, on invite les gens à aller voir. En fait, on retrouve beaucoup de ton travail sur Grand Papier, je crois.
Ouais.
Il y a beaucoup de... Enfin, il y a des petites histoires en cours. Et alors, il y a un travail de dessin qui est assez différent de ce qu'on a dans les publications. Donc ça, c'est pareil, si tu peux en parler un peu.
Mais moi, j'ai fait les beaux-arts. Donc, je faisais pas de bande dessinée. Je faisais du dessin pour le dessin. Et puis, depuis tout petit, je voulais faire la bande dessinée. Donc, c'est un truc qui est revenu. Mais moi, j'aime surtout la pratique du dessin, quoi, pour le dessin. Donc j'ai toujours gardé ça et puis en ce moment ça revient. C'est la bande dessinée, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, c'est une discipline assez rude. C'est voilà, il y a des moments un peu difficiles. Donc le dessin permet de garder une espèce de, je sais pas, de...
Mais il y a toujours un peu quand même un fond de narration parce que même dans tes vignettes pas toujours mais il y a quand même...
Pas toujours, ouais. Ouais, ça dépend. Ouais, ouais. Mais c'est ouais, ça dépend de quel.
Oui, parce que pour parler du dessin, effectivement, il y a deux aspects. Il y a un côté qui est plutôt minimaliste, mm-hmm. d'un côté qui est en général le travail narratif,
ouais.
assez minimaliste. Et puis alors le travail de dessin, là, on est vraiment dans quelque chose de très fouillé, c'est chargé, qui évoque les peintures de Jérôme Bosch,
ouais.
où effectivement il y a ce côté créature monstrueuse, enfin qui mm-hmm. évoque comme les sept péchés capitaux et autres tableaux célèbres, où effectivement il y a ce côté-là où effectivement il y a finalement ça dirait presque un grand écart entre au point de vue graphique en tout cas du style, totalement.
En fait, le truc c'est que par rapport à la bande dessinée, je trouve par rapport à la méthode de travail, la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Et du coup, personnellement, j'ai du mal à faire un crayonné, reprendre au propre. Enfin, je trouve ça assez lourd. Donc en fait, en bande dessinée, moi, je m'attache surtout à faire des choses assez simples qui vont directement au but, quoi. Je cherche pas à faire du beau ou à faire quelque chose de graphiquement intéressant. Enfin... intéressant en tout cas graphique, enfin ouais, du beau, voilà. Et du coup par rapport au dessin, quand j'ai le temps, là c'est juste du dessin, donc je me fais plus plaisir et j'ai pas le il n'y a pas la problématique de c'est un dessin, les choix se font sur un environnement qui est fermé, il y a un cadre, voilà. Et donc, du coup, c'est un dessin.
Alors, il y a des très belles choses à voir du côté de Tranchée Racine, un des ouais. collectifs de Blanquet, chez United Dead Artists.
Ouais, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, ouais.
Les suites de dessins qu'il y a sur grand papier sont parfois assez sublimes aussi. Enfin, je trouve. Après, ce que je trouve chouette dans Ecce Homo, c'est justement que j'ai l'impression qu'il y a un moment, au fil des récits, il y a trois récits, c'est ça ?
Ouais, ouais.
On arrive presque à une synthèse, en fait, finalement. Le dernier récit, c'est... On a quelque chose de plus rond, plus travaillé, moins synthétique que Bernard Barracuda, par exemple.
Ouais, bah, il y avait un effort. Bah, ouais, après, c'est des phases aussi par rapport à où j'en suis. Parce que la difficulté là-dedans, c'est que donc, la bande dessinée, c'est un truc que je trouve un peu lourd. Et du coup, il y a en même temps la volonté d'arriver vers quelque chose d'un peu plus graphique, malgré moi, quoi. C'est-à-dire, quand je fais Bernard Barracuda, je me dis, merde, c'est pas beau. Je perds quelque chose. Il faut que j'en mette plein la vue. Il faut que machin. Et finalement. Sur ce truc-là, je suis un peu revenu vers quelque chose de plus graphique, plus, je sais pas, plus composé, quoi. Même si ça reste, enfin voilà, c'est pas que, c'est fait au marqueur, c'est pas hyper précis, c'est pas hyper chiadé, mais il y a, voilà. Donc ça, c'est une espèce de névrose personnelle où je me suis dit, il faut que sur le prochain, ce soit un peu plus joli, quoi.
Joli.
Oui.
Et alors, il y a quelque chose de. Par rapport aux thématiques que tu abordes, je trouve qu'il y a beaucoup de. On rigole pas mal, et en même temps, il y a quelque chose d'assez cruel dans ce que tu racontes.
Ouais. Un nouveau noir presque typique. Puis des fois.
Ouais, un peu requin marteau.
Effectivement, en tout cas, pour le Bernard Barracuda, il y a ce côté humour, puisque c'est l'histoire d'un paraplégique dans un hôpital, l'hôpital de l'Espérance. Mais effectivement, comme c'est bien présenté, bien pitché sur le site de requin marteau, c'est plus finalement tout ce qui se passe autour, la famille,
le père
qui a causé l'accident, etc. C'est un humour juste noir, horrible, cru, mais qui est ultra efficace. Il faut dire qu'on rigole beaucoup. Oui, malgré soi, bien. Parce que parfois c'est très méchant.
Et dans Ecce Homo, on retrouve aussi toujours un peu de cruauté. On a trois histoires complètement différentes, mais il y a toujours un fil. Et quand l'humour s'en va, je trouve que ça devient vraiment, dans tes séries de dessins, tout, c'est vraiment, ça claque, c'est très... Des fois, ça me fait un peu penser à du Benjamin Monti aussi, au niveau de l'esprit, c'est un peu...
Ouais, peut-être. Je connais un peu son boulot, mais je peux... Ouais.
Dans certaines BD, comme ça, il y a de la cruauté qui vient... un peu mal à l'aise, qui est un peu frontal. Mais
dans Bernard Barracuda, en tout cas, c'est le principe, c'était juste de faire un anti-héros. Donc il est tétraplégique, paraplégique, mais en plus il sait pas parler, il bouge pas, donc en fait il est vraiment, il subit l'entourage, il subit tout ce qui lui arrive. Et en fait, ouais, une des thématiques qui revient, c'est les relations humaines, quoi, dans mes boulots, c'est la difficulté de le fait que la relation est compliquée, il se passe des choses un peu monstrueuses, on fait dire des choses, on se sent un peu, il y a des moments dans la vie, je sais pas, quand ma mère me dit quand je lui dis moi j'aime pas les haricots, elle me dit mais si, t'adorais ça quand t'étais petit, je comprends pas, enfin j'ai l'impression que je suis plus moi-même, quoi, que ma mère que ma mère me redéfinit, mais et du coup voilà, c'était un peu le sujet du truc, et par rapport à Bernard Barracuda, et donc voilà, j'ai un peu perdu le fil.
Chez Ecce Homo, on retrouve ça aussi, moi en ayant lu les deux, je retrouvais cette cruauté. Parce que tu parlais de relations humaines, moi j'avais même l'impression que ça pouvait se centrer sur les relations familiales, quoi, où il y a un truc assez horrible comme ça, un truc très tendu. Il y a comme ça deux citations que j'ai trouvées dans Barracuda, mais qui peuvent s'appliquer finalement à Ecce Homo aussi, et finalement à ce que disait Johanna par rapport au dessin libre sans la narration. C'était à la fin de Barracuda, il y a une scène chez un psy où il y a un des personnages qui dit « Oui, est-ce que vous savez ce que c'est ?» ou « Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est de, de, de vivre mieux finalement sans le reste de l'humanité. Mm-hmm. On imagine que pour Bernard Barracuda, en fait, c'est mieux finalement sans son horrible famille et qui essaye de profiter de lui, etc. Et donc, je fais peut-être un parallèle très qui vaut ce qui vaut, mais en t'entendant parler du dessin pour le dessin sans la BD, j'avais l'impression qu'il y a peut-être ce côté-là aussi. C'est quand on peut se débarrasser un peu de la narration, qu'est-ce que ça fait du bien dessiner comme ça, ce côté-là. Et alors, il y a une autre citation qui, là, par contre...
D'aimer Césaire.
Peut-être avoir besoin de toi. Non, c'est Jonathan Swift, qui est au départ du bouquin, que je trouve à la fois très belle, mais j'ai l'impression presque issue d'une chanson de Michel Sardou, parce qu'on peut l'interpréter de toutes les manières qu'on veut. À la fois, j'ai l'impression très plate et qui veut dire tellement de choses.
Ça, c'est typique de Sardou.
Ouais.
Qui est vous ? Voilà. Mais je trouve. Alors, souvent, chez Michel Sardou, c'est très plat, mais les gens qui le connaissent pas, ne savent pas que derrière. Mais bon, voilà.
Enfin, j'adore Michel Sardou.
Ben voilà.
Non, pas du
et
tout.
Tu n'es pas. Guillaume Maupin aussi adore Michel Sardou. On est au moins trois. Et donc, c'est puissiez-vous vivre tous les jours de votre vie ?
Ouais. Oui, ça paraît con, mais en fait, c'est pas si con.
Voilà. Ouais, ouais. Ben, c'est exact. Voilà.
Ouais.
Donc, est-ce que tu peux.
Expliquer ça ?
Parce que moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Mais je voulais être sûr que c'était bien ça. Et
donc, je crois que c'est ça. Mais je vais quand même essayer d'expliquer. Mais la phrase, elle paraît bête, puisque effectivement, si tu vis, t'es dans ta vie et tout ça. Mais l'angle que j'ai sur les, je raconte juste les relations humaines. Donc en fait, je pense vraiment que finalement, les relations, elles sont hyper importantes. Elles nous font nous. Elles nous, c'est des choses qui nous caractérisent. Et donc, c'est pas si simple de vivre sa vie, quoi. Et autant avec les parents, avec les amis, avec sa copine, avec finalement, il y a souvent des moments où on est ramené à ce que l'autre pense de nous. Il y a une espèce de l'enfer, c'est les autres, parce que les autres, ils nous définissent. Donc, en fait, nous, on a peut-être notre petite définition de nous-mêmes, mais finalement, elle vaut pas tant que ça au milieu des autres, quoi. Et donc, c'est un peu le sujet.
Ça fait une bonne transition par rapport au bouquin d'Émilie, finalement, puisque c'est un peu le centre, je dirais, de ton livre, puisque c'est une colocation à Bruxelles. Et c'est chaque fois donc récits autobiographiques, des fragments de vie de cette colocation, le rapport aux autres, et des séquences particulièrement drôles que sont les castings, où effectivement quand il y en a un qui part, on va caster le nouvel arrivant, etc. Mais il y a effectivement ce côté très relation, le rapport aux autres, les gens qui s'enferment dans leur chambre pendant des heures, qui veulent pas communiquer avec les autres, ceux qui sont trop présents, etc. Des gens qui foutent rien, le bordel qui s'accumule, enfin... Tout ça, est-ce que tu peux parler un peu de ça finalement? C'est pourquoi tu as trouvé que c'était un terreau fertile, ça te marquait, tu avais envie de parler de ces détails du quotidien?
En fait, j'ai commencé à faire un fanzine avant le livre et je venais d'arriver à Bruxelles, je connaissais personne et il s'avérait qu'il fallait que je prenne une autre colocation parce qu'au niveau des loyers et tout ça, c'était pas possible de vivre toute seule. Et j'étais hyper timide, pas très à l'aise dans la colocation. Et je me suis dit que le moyen de communiquer avec mes colocataires, c'était de faire le fanzine. Et donc j'ai...
Du coup, tu leur montrais tu...
Ouais. À chaque fois que j'en imprimais un, on se retrouvait dans le salon et je leur montrais. Et le premier, j'avais vraiment peur qu'ils réagissent très mal. Et puis, en fait, ils se sont dit « Ah, c'est chouette, moi je suis comme ça, toi t'es comme ça. » Et c'était pour moi un moyen de communiquer avec les autres, vraiment, parce que j'étais complètement coincée. Je le dis au début du livre, j'étais coincée dans ma chambre, j'osais pas sortir pour aller manger. Et ça m'a permis de m'adapter à la colocation, de faire ma place aussi au sein d'un groupe qui était déjà créé depuis longtemps.
Mais d'une manière générale, tout ton travail porte sur ça, en fait. Tu ramènes toujours des bribes de ta vie, de ton expérience.
C'est des observations au quotidien. Enfin, j'ai fait un fanzine donc sur la colocation qui a donné lieu au livre Chez Six Pieds Sous Terre. Maintenant, je fais un fanzine aussi sur mon travail. Et puis avant, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais aussi fait des fanzines sur le milieu des Beaux-Arts, sur les étudiants, sur les profs.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en général... Enfin, moi, je rigole beaucoup quand je lis tes strips. Mm-hmm. J'avais lu ça aux Beaux-Arts, j'ai lu des strips d'histoire de caissière aussi, il y a quelques temps.
Ah oui,
quelques
c'est
temps,
vrai, ouais. Ouais.
Et alors, comme un plateau, moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Mm-hmm. Je trouve que c'est... je l'ai déjà dit pour d'autres livres ce soir, mais je trouve que c'est hyper juste. Il y a une distance à la fois... alors, il y a quelque chose de très pudique, en fait. Il y a des moments, c'est des sortes de déclarations d'amour pudiques, mmh. mélangées à cette crainte de vivre avec les autres, et puis cet affichage très franc du « bon ben voilà, lui un tel, il est comme ça, lui il est comme ça, et ça pose problème ». Donc voilà, pour moi ça fonctionne très bien. On n'a pas parlé de ton dessin, mais t'as un dessin super cohérent. En fait, Émilie Plateau, ça se reconnaît au premier coup d'œil. C'est un trait très simple. Moi, je trouve que parfois, c'est vraiment très poétique.
Proche de Baladi et d'Emmanuel Guibert.
Ah bon?
Je suis pas du tout d'accord.
Je disais qu'il y avait...
Non, mais là, on est aussi dans quelque chose de minimiste, mais il y a un côté dessin naïf, mais non péjoratif, dans le sens d'art naïf, mais de ce travail sur la synthèse des petits personnages. Ils sont tous dessinés en pied, mais... il doit faire 1,5 cm de hauteur tous. Il y a pas, il y a quasi aucun décor. C'est juste voilà, en feuilles libres, en page, ça respire et c'est vraiment très. Ça correspond bien à une forme de fragilité, je trouve, d'intimité immédiate. On est directement avec. Ça fonctionne super bien parce qu'on est directement avec toi, avec ces autres personnages. Et il y a ce côté. Immédiat.
Moi, je trouve qu'il y a un côté très naturel, en fait. Et dans le dessin et dans l'écriture, il y a un truc qui est posé, comme ça, qui est très juste, toujours.
Le livre, il a été écrit un peu comme un journal au quotidien de ce que je vivais. Et j'écrivais un petit peu dans mon carnet des scènes que je vivais ou des dialogues. Et après, je les mettais en images sur le vif.
Mais c'est comme si tu sélectionnais toujours le moment où tu allais pouvoir tirer un jus, que ce soit un truc drôle. Parfois, c'est pas drôle du tout. Il y a le coup de fil d'une de tes amies qui dit « je me casse, il y a des rats, machin s'est battu ». Enfin, des fois, voilà, il y a comme une chape qui tombe et tu te dis « ah, c'est pas drôle tous les jours ». Et puis la page d'après, tu vas de nouveau rigoler parce que finalement, en lisant ce livre, tout comme toi, on s'est attaché au coloc et tout. Moi, j'étais presque triste que tu quittes cette colocation, finalement. Retourne meilleur avec tes colocs.
Moi aussi, j'étais triste de quitter la coloc, oui.
Il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, dans la progression du récit et en refeuilletant les fanzines, parce que je m'étais demandé si ça avait été fait pour le livre, c'est le final, parce que je trouve ça... très beau, mais c'est effectivement dans le huitième fanzine, il y a ce final qui est assez différent, tu vas te balader dans la rue, et d'un coup, tu as tu présentes un commerce ou une façade, où effectivement on quitte d'un coup graphiquement ce qui avait été installé avant, et puis au point de vue de type de récit, et ça fonctionne vraiment bien. C'était effectivement voulu, tu savais que c'était ton huitième et dernier fanzine, et tu voulais conclure comme ça, différemment.
En fait, quand j'ai fait le dernier fanzine, le huitième, pardon, je savais que j'allais sortir le livre. Et du coup, c'était peut-être aussi une manière de dire, il n'y a pas seulement le huis clos qui se passe dans la colocation, il y a aussi des choses en dehors. Et c'était aussi important pour moi de situer la colocation, la maison, avec un univers autour. Et c'est pour ça que...
Et ça marche très bien, c'est très émouvant. Enfin, je trouve que ça a une touche, ça marque le bouquin, parce que d'un coup, ça nous emmène au-delà aussi. Et ça,
ça
est très efficace.
Apporte un ailleurs un petit peu, un avenir, enfin je sais pas
moi,
trop.
Si je puis me permettre, je trouve qu'il manque une espèce de bonus avec toutes les histoires sexuelles qui sont passées. Parce que,
apparemment, on en a déjà parlé.
Apparemment, ça a couché un petit peu.
C'est le tome 2, en fait.
Ouais, bah oui, bah, voilà, j'attends.
C'est ça, c'est, y aura un fanzine off que je vendrai sous le manteau. Je sais pas encore.
J'avais deux trois
sur un plateau.
Mais je, voilà.
Bon, mais je propose qu'on écoute un peu de musique avant de continuer. Ouais. Pour continuer à faire des blagues hors antenne.
Là, pour faire trembler les colocs, c'est parce qu'après tu vas nous parler des histoires en fait en question.
Exactement.
Avec les noms.
J'écoute tous, j'espère ce soir.
Valfrey, c'est toi qui vas présenter le morceau qu'on va écouter. C'est toi qui l'as choisi.
Ouais, c'est Révérend Beatman. Voilà, et ça s'appelle Jésus-Christ Twist. Donc c'est du les amateurs reconnaîtront du psychobilly blues trash, et les autres danseront simplement. Voilà.
Waouh. Ok, alors on continue. Donc nous avons comme invité Émilie Plateau et Valfrey. On continue notre discussion passionnante. Philippe, tu avais des questions ?
Oui, moi j'avais une petite question pour Émilie.
Oui.
On a parlé du style de dessin d'Émilie. Alors moi j'ai d'abord une anecdote. J'ai à la librairie, il y a deux jours, un client qui s'est plaint parce qu'il a pris ton bouquin. Il a dit « Ah, waouh, ça a l'air bien » et tout ça. Il m'a demandé ce que j'en pensais.
Mm-hmm.
Donc moi je dis « Ah oui, c'est plutôt bien » et tout ça. Et puis, très intéressant, machin. Et il dit, et vous avez des lunettes, vous ? Il me dit, oui, j'ai des lunettes. Et il dit, bah, moi aussi, j'ai des lunettes. Et ils en ont pas marre, les dessinateurs, de dessiner si petits. Moi, je peux pas, malgré mes lunettes, lire des bouquins avec des personnages si petits. Il faut leur dire, quoi. Donc, voilà, j'ai juste dit que, par chance, je te connaissais et que j'allais transmettre l'info. Mais donc, manifestement, ce monsieur allait avoir du mal à lire comme un plateau et du coup, il l'a pas acheté.
Bon, voilà. Il y a des loupes, hein, je crois, ça s'achète encore des loupes.
Oui, mais voilà, peut-être que voilà.
Bah, on a
ça, c'est pour l'anecdote.
De l'aspect du livre, mais donc c'est un.
Mais Philippe n'avait pas fini.
C'est vrai. Excuse-moi, Philippe.
C'est son intro.
Et alors, j'avais un truc beaucoup plus intéressant à dire. Un truc beaucoup plus intéressant à dire, c'était. Non, moi, je me demandais, vu que en effet, comment expliquer ce style épuré, je dirais minimaliste et tout ça, bah, voilà, on l'a dit un peu là tantôt, ça fait un peu référence à la timidité du personnage principal et tout ça. Toi, en l'occurrence, pour ça, c'est assez bien tapé, ça fonctionne. Et je me demandais, à l'avenir, est-ce que pour plus tard, vu qu'à un moment, tu vas t'assumer, t'émanciper, est-ce qu'on peut s'attendre à un bouquin avec des dessins de dingue, à un truc à la Moebius, un truc qui éclate dans tous les sens? Est-ce que ce style comme ça, fragile, sensible, par ailleurs j'aime beaucoup, mais est-ce que ça c'est devenu une sorte de marque de fabrique dans laquelle tu vas rester? Est-ce que un jour tu vas faire des trucs de dingue?
C'est déjà des trucs de dingue,
c'est ça ma question. Oui, des trucs
David
de dingue.
David Libben, il viendrait fou ici, hein.
Voilà. Bon, voilà, ça c'est un peu. C'est parce que j'ai l'impression que c'est. En fait, j'avais l'impression qu'au départ, c'était presque une sorte de. Peut-être pas de choix de dessiner comme ça, presque un truc qui coulait naturellement.
Ouais, c'est
et puis
ça,
sur tout un bouquin, ça colle, enfin ça marche, et du coup, ça devient comme un style assumé. Je disais une marque de fabrique. Mais du coup, est-ce que on peut imaginer que ça évolue? Que ça change, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question.
Mais moi je trouve que ça évolue, excuse-moi, je réponds d'abord à ta place, mais je trouve que ça évolue. Moi je trouve que, bah, déjà il y a un travail de dessin aussi qui accompagne tes petites histoires, c'est des trajets que tu fais en train qui sont un travail de carnet. Et je trouve qu'au fil du temps ça s'est enrichi voilà, de détails de verdure, quand il y a de la verdure, de neige, de pluie. Je trouve que les signes, enfin, plus ça va, plus ton panel de signes graphiques s'enrichit. Donc, pour moi, ça évolue.
Mais bon, je te laisse Moebius, parler. On veut du Moebius, bordel.
Bon, mais il faut que tu te fasses à l'idée qu'il est mort.
C'est vrai ?
Ouais. Ouais, donc. Bah, ce livre, c'était. C'est assez intimiste, assez. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un huis clos et du coup le dessin minimaliste collait bien avec l'histoire. Après là, j'ai un autre projet qui sera aussi avec des dessins minimalistes. Mais je fais aussi d'autres dessins un petit peu comme Valfray à côté, qui sont exposés en galerie à Montpellier.
Et qui... qu'on peut voir ailleurs ou du coup
J'en ai mis un petit peu sur... sur mon blog, sinon il y en a certains qui ont été imprimés sur, par un fanzine, par Nord-Est, pardon. Et enfin j'aime bien voir plusieurs styles différents. Par exemple là c'est une histoire personnelle, un journal, et donc c'est minimaliste. Et puis après, comme disait Johanna, je prends souvent le train et je fais des carnets dans le train. Et là, c'est peut-être un peu plus lâché, plus spontané, avec plus de détails. Et mais au fur et à mesure du livre, ça se voit aussi que je développe un peu. Enfin, c'était aussi compliqué parce que c'est toujours dans la maison, donc je voulais pas qu'il y ait trop non plus de décor. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être un peu répétitif de toujours voir des gens de pied ou dans un canapé. Bon, en même temps, c'était le sujet. On était toujours dans un canapé, mais ouais. C'est sûr que ça va évoluer.
Parce que ça a été dessiné sur plusieurs années. Est-ce que tu as, pour le bouquin, par exemple, redessiné des choses ou pas du tout?
Alors, j'ai commencé le fanzine quand j'ai emménagé dans la coloc. Il y a eu 8 numéros qui sont espacés sur 1 an. Et puis, quand j'ai su que j'allais, enfin, que le livre allait être imprimé par 6 pieds sous terre, j'ai. Déjà, le fanzine était en A5, là, c'est un carré. Donc, j'ai dû refaire toute la mise en page. Et puis, évidemment, il y avait des dessins qui étaient assez vieux, qui étaient assez datés, que je ne trouvais pas très bien dessinés, tout ça, que j'ai redessiné. Ouais. Donc le livre, il a été fait sur presque 2 ans.
Et dans le fanzine, dans le 8e fanzine, les fameux néons de la basilique de Kuckelberg sont en rouge.
Oui, c'est fait à la main.
À la main, oui, je me doutais, mais quel travail. Oui.
Mais c'est le petit détail.
Comment ça s'est passé, par exemple j'étais curieux par ton rapport à l'éditeur. Comment ça s'est mis en place? Ils ont vu tes fanzines et ils t'ont contacté. Tu leur as envoyé tes fanzines. Mm-hmm. Comment ça s'est mis en place, ta relation avec 6 pieds sous terre?
En fait, donc j'étais au Beaux-Arts de Montpellier. 6 pieds sous terre est basé à Montpellier, enfin dans une ville à côté. Et en 4e année, il fallait faire un stage. Enfin, moi, j'étais au Beaux-Arts, c'était une école très art contemporain, conceptuel, et j'étais déjà beaucoup attirée par la bande dessinée. Et du coup, je les ai rencontrés à un festival à Montpellier, Festival du Livre. Et j'ai passé 2 mois dans la maison d'édition, donc j'ai aidé Jean-Philippe Garçon à faire des mises en page, des corrections orthographiques, etc. Et puis, j'ai rencontré les autres membres de la maison d'édition. C'est devenu des amis. Ils m'ont proposé d'aller à Angoulême. Et puis, je crois que le premier Angoulême où j'étais avec eux, j'avais déjà imprimé un fanzine qui s'appelait aussi comme un plateau, mais c'était d'autres... c'était des petites scénettes, des anecdotes aussi. Et puis, timidement, je les ai présentés un peu. J'ai continué à... aller voir en dehors et au bout de quelques années, j'ai participé à la revue Jade qui reprend des thématiques sur la bande dessinée. Donc j'ai participé à deux Jade. Et puis après, c'est Jean-Philippe qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire un livre ?» Et voilà, comme j'étais encore dans le fanzine, je lui ai demandé si c'était possible de faire un recueil du fanzine. Mais je voulais pas non plus faire un copier-coller du fanzine, donc on a réadapté ça ensemble. Et c'est aussi pour ça que la maquette a changé.
Ben voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, parler de l'objet. On n'a malheureusement pas vu les maquettes des tiens, Valfray, parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais voilà, tu disais que ce serait des petits livres aussi.
Ouais, c'est un
petit format.
Petit format, ouais. Ouais.
Quarantaine de pages à chaque fois.
Ouais, il fait que 44 pages. Ouais.
Barracuda, c'est collection chevrotine, c'est ça? C'est
chez les requins. Chez les requins, il y a pas vraiment de collection. En fait, quand ils sortent un album, ils créent une collection. Donc,
d'accord. Voilà. C'est ce qui explique. Mais... Ça me faisait, vu le format, ça me faisait penser à un autre bouquin que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est la collection chevrotine. Je me dis, ça doit ressembler à ça.
Ouais.
Mais s'il y a à chaque fois une collection.
Je sais même pas dans quelle collection il est. Ouais.
Le Barracuda a une super couverture. Franchement, l'idée, c'est génial.
Comme un plateau, c'est un petit format carré.
Oui.
C'est format carré, dos carré, petite couverture bleue avec une petite neige. Je le trouve très séduisant. Quand je l'ai vu, c'était un peu... Oh, on a aussi envie de le prendre dans les mains. Je trouve que c'est un beau petit objet. C'est de nouveau très cohérent.
Tu as fait tous les points toi-même?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Il y avait combien de stagiaires sur la couverture?
Moi seule, l'ancienne stagiaire de 6 pieds sous terre. Ouais.
Non, mais je trouve l'objet très attirant aussi. Ça mm-hmm. compte. Quand on passe du fanzine au livre, c'est bien que ce soit aussi vraiment différent.
Ouais, je voulais vraiment que ce soit différent.
Avec la neige déposée dans le creux des lettres.
Ouais, dans le creux des lettres.
Oui.
Et pour faire le lien avec un autre bouquin bien séduisant, c'est un fanzine, le fanzine Banzai, qui... en jette aussi, parce qu'il a une super couve, sérigraphiée.
Sérigraphiée dans le garage des parents d'Olive Bouguer. Donc c'est pas n'importe quel garage.
Ouf, ouais. C'est du lourd. Fanzine qui a un format très particulier, qui, les spécialistes de la maquette, vous me dites le format.
On appelle ça un format vertical.
Un format vertical, voilà. Tout simplement. J'aurais dit un format à l'italienne à l'envers, mais ça ne marchait pas.
Il y a un bouquin de Carl et Noémie de chez Nord-Est.
Qui a plus ou moins ce format-là.
Voilà, qui a ce format-là, un peu
c'est
plus
un, long. C'est un livre assez malheureux qui ne trouve jamais de place dans une étagère.
L'histoire, c'est un format particulier.
Particulier qui est un format qui se prête particulièrement bien au strip et qui donc regroupe tout un tas d'auteurs, enfin tout un tas, en tout cas 5. Rémi Benjamin, ah oui,
5. Non, il y en a 5.
Il y en a 5. Ouais, Rémi Benjamin, Olivier Bouguer, Colville Petitpont, Valfray et Jackie X. On va parler aussi. Peux-tu nous parler de ce projet, de ce Banzai numéro 1?
Le Banzai, en fait, ça s'est créé comme ça, avec Bouguer. C'était une période, je ne sais pas si les gens connaissent Bouguer, je pense qu'il y a des gens qui connaissent.
On en a parlé.
Parler de I Like Your Songs.
Voilà, et du coup, c'était une période où j'envoyais des mails aux gens pour connaître leur maladie de peau, leur maladie... passé la trentaine, j'avais besoin de savoir que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes de dos, donc on a sympathisé avec Bouguer et puis on s'est dit on va faire un fanzine. On n'avait pas les mêmes maladies, hein, mais c'était assez proche. Et puis avec Rémi Benjamin, voilà, on a lancé le truc. L'idée c'était de partir de bandes dessinées existantes, de faire des pastiches, de faire des parodies. C'est pas vraiment des strips, même si le format est c'est vrai, adéquat au strip, ça suit, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est
des successions de bandes.
Ouais, de bandes.
Très précis, oui, ce
voilà.
Soir.
Voilà, des successions de bandes. Et
Et quoi?
Écoute, j'en parlerai avec Thierry Grunstein pour sa définition. C'est chaud.
Et du coup, voilà. Donc, ça, on a sorti le premier, je sais plus. En fait, je sais plus quand c'était. Le prochain, je sais pas quand il sortira. C'est un peu
au mois de mai. Le poste a été publié au mois de mai 2012.
Ah bah ça doit être.
C'était la photo de la caisse de bonsaï.
C'est ça. Ouais. C'était une période un peu trouble. C'est pour ça que je me rappelle pas trop. Et le prochain, je pense là pour le coup, il y aura que des strips. Ouais. On est en train de réfléchir à la chose. Et par rapport à Jackie X.
Tout à fait. Oui, puisque j'ai vu qu'il y a des Boridage Bible.
Voilà, donc très vite, Jackie X, c'est un type qu'on a rencontré du côté de Mons.
Non, Jackie X, c'est d'abord un
oui, grand... Oui, c'est un grand cycliste. Non, cycliste.
Conducteur automobile belge.
Ça. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est d'abord.
Ça s'écrit pas de la même façon. Hein. C'est son homonyme. C'est son homonyme.
C'est un homonyme, ouais. Voilà. Et du coup...
Que c'est X comme un X pour lui.
Voilà.
Pour le dessinateur.
Ouais. Et du coup, il habite Coëm, on l'a rencontré comme ça par hasard dans un café, et en fait, il faisait un peu de bande dessinée. Il est steward pour la ville à Mons. Donc il a une belle parka violette et il indique aux gens où ils doivent aller quand ils sont perdus. Et du coup, il dessine et donc bon, on l'aide un petit peu à fignoler ses trucs et je fais un grand écart en fait. Donc il a participé dans le fanzine Banzai et puis après il connaissait les Tijuana Bible et du coup on imprime ces trucs en sérigraphie avec l'atelier du 38 qu'est Notre-Dame à Tournai Et donc on a prolongé, il fait des histoires un peu cochonnes, voilà. Pour les gens qui connaissent pas les Tijuana Bible, le principe c'est de reprendre des personnages connus de séries de bandes dessinées et de les détourner dans des univers assez pornographiques et érotiques, voilà.
Ouais, c'est du pastiche érotique. Bon, il y a une longue tradition de Tijuana Bible qui a plus d'un siècle, je pense. Et ce qui est marrant, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le dernier paru, c'est Je fais souvent ce rêve, avec en couverture un pastiche de l'auteur norvégien Jason, dont on aime tant l'œuvre ici. Et donc, voilà, assez décalé, puisque c'est un pastiche, un mélange de pastiche entre Natacha de Walteri et de personnages de Jason. Donc, c'est un choc frontal entre ces deux univers.
Avec des textes de Baudelaire, de Verlaine, et je sais pas, Jackie, il a fait une espèce de mix.
Ouais, non, c'est assez.
C'est étrange.
Ouais.
Alors, on va doucement conclure.
Tout ça, c'est des choses juste qu'on peut voir où, qu'on peut obtenir où.
Il y a un blog. Oui, c'est bien que tu. Il y a un blog Borinage Bible. Je sais plus ce que c'est. Enfin, faut taper Borinage Bible sur Google et voilà, il y a moyen de les choper. Vu qu'il a un boulot à côté, donc on en imprime peu, donc on en imprime 4 par mois. On essaye et voilà. Donc, sur le site, sur le blog.
Ce que je voulais, c'est que vous nous disiez un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver où est-ce qu'on a pu vous trouver récemment. Genre, il y a eu Georges ou Superstructure, quelques petites choses. Et puis, s'il y a des choses à venir en cours, où est-ce qu'on peut vous suivre. Donc, on sait qu'il y a des livres, un qui est sorti, un qui va sortir. Et puis, nous dire s'il y a d'autres projets qui couvent.
Oui, alors moi je travaille sur un livre sur l'amour et la sexualité, qui n'a rien à voir avec la colocation.
Je sens qu'il y a des déçus.
Ouais. Et puis sinon, je vais faire une exposition à l'atelier Nord-Est aussi, dans le cadre, pour présenter un petit peu le livre comme un plateau. Et je participe de temps en temps à des fanzines comme Tonton, ou sinon je... Il y a aussi Superstructure numéro 3 qui va sortir.
Ouais, je sais pas.
Enfin, on participe tous les deux un peu à Superstructure. Et puis, ouais, des.
Il y a Gilles Rochy.
Ah, Gilles Rochy, oui. Qui demande à des dessinateurs de participer. Et à Juliette aussi, qui fait participer Sous Terre. Et puis, il y a aussi les gens du Cheval de 4 qui m'ont proposé de faire une petite compilation de. Des strips que j'avais publiés sur leur site, sur la Gazette du Cheval de 4. Donc voilà, pour ça.
Et pour toi, Valfrey?
Pour moi, il y a les Tranches et Racines qui sortent en ce moment à Paris, à l'Art Factory, je sais plus, c'est la Galerie Art Factory, je sais pas. Sinon, je dois faire un petit album pour Monsieur De Jong, pour Récit Express, et puis voilà, je vais un petit truc aussi d'un recueil de dessins sérigraphiés, voilà.
D'accord.
Qui va sortir bientôt.
On sait pas où.
Si, c'est il y a à Tournai, c'est le 38 quai Notre-Dame, ils ont un atelier de sérigraphie, et voilà, ils font des petits bouquins, ils font des expos.
Vous avez tous les deux des sites, de toute façon. Assez régulièrement alimenté. On peut suivre les dessins, les publications, les dédicaces.
Parfait.
Tout.
Le bonheur.
Ok, on a fait le tour, les gars.
Tout à fait.
Alors, je vais dire deux choses. Une chose, la prochaine émission, c'est le mercredi 24 octobre. Merci à vous d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Émilie, je vais te laisser terminer. Tu vas présenter ta musique.
Oui.
HP Alexandre de Motet, c'est pour la prochaine fois. On a un petit mot de derrière et ils sont déçus. Mais on avait dit qu'on parlerait de HP Comics, mais on va le faire la prochaine fois.
Mais de toute façon, il y a un site internet, les gens peuvent.
Il y a un site internet, vous pouvez déjà lire et imprimer des tas de choses, mais ce sera la semaine prochaine.
Allez déjà jeter un coup d'œil à HP Comics et on en reparle le mois prochain.
Et donc, voilà, Émilie, tu nous présentes ton morceau et on se quittera là-dessus. Bonne soirée.
Oui, alors c'est un morceau de Sexy Sushi que je dédie à Juliette Blabla. Voilà. Et à Amélie aussi.